Bien, bonsoir. Nous allons procéder à l'appel. Monsieur Martin présent. Monsieur Pasternak. Monsieur Delman absent, pouvoir Monsieur Martin. Monsieur Fontaine absent, pouvoir Monsieur David. Madame Thomé. Monsieur David. Madame Delaney. Madame Munzer. Madame Letouzé. Madame Rinin. Monsieur Echen. Monsieur Hirt. Madame Renouille, Monsieur Hippolito, Monsieur Raskin, Madame Nataf, Madame Gastine, Madame Matruchot absente, pouvoir Madame Gastine, Monsieur Nicolas, il devrait arriver, Madame Renouille, Anne absente, pouvoir Madame Martineau, Madame Martineau présente, Monsieur Pereira, Monsieur Degrassa, Madame Fontaine, pouvoir Monsieur Hirt, Monsieur Arasi, Madame Joffé absente, pouvoir Monsieur Pereira, Madame Monchamp, Madame Debecker, oui, d'accord, Monsieur Gilles, Madame Éloin présente, Monsieur Devinc, Monsieur Sajot absent, pouvoir Monsieur Pasternak, Monsieur Jeb, Monsieur Mastrojani absent, pouvoir Monsieur Jeb, Madame Lavin, absente excusée. Secrétaire de séance, je voulais proposer Monsieur David. Je voulais proposer Monsieur David en tant que modérateur. Et comme secrétaire de séance, je voulais proposer Monsieur Raskin. Très bien. Bon, je vous propose, dans un premier temps, les procès-verbaux que vous avez reçus. Mille excuses d'avoir fait un tir groupé, mais nous avions un retard important dû à des raisons multiples. Mais il se trouve qu'il fallait rattraper ce retard. C'est pourquoi vous avez reçu le solde des procès-verbaux des derniers mois. Moi, je vous propose que si... Est-ce que vous avez eu l'occasion de les parcourir? Sinon, vous me le dites, je les reporte au conseil suivant. Ça ne pose pas de problème. Sinon, si vous en êtes d'accord, nous pourrions donc les voter. Et s'il n'y a pas de remarques, en dehors de celle que je viens de faire, qui est tout à fait logique, je comprends que le paquet de documents que vous avez reçu peut être dissuasif à la lecture de prime abord. Monsieur Arzi, vous voulez dire un mot?
Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Une question de principe que j'ai évoquée ici, puisque dans notre règlement intérieur, qui, dans son mode de fonctionnement, il est prévu que les comptes rendus de nos conseils soient donnés un mois après. J'avais évoqué cette question. Vous disiez que c'était peut-être un peu trop juste. On en est où sur ce point? Est-ce que là, il faudrait peut-être procéder...
Non, mais il y a plusieurs mois, là. Il y a plusieurs mois.
Voilà,
Écoutez, est-ce que c'est important? On peut renvoyer cette question à la commission au règlement intérieur le moment venu, si elle se réunit un jour. Mais là, en tous les cas, moi, je réponds à votre question de la façon suivante, c'est que nous allons essayer de tenir le mois. Hein, c'est le plus simple, plutôt que d'entériner le retard que nous avons eu. Bien au contraire, faut se contraindre à cette discipline. Voilà, donc, simplement deux petites communications, mais très courtes. C'est plutôt... une annonce que je voulais vous faire. Est-ce que vous pouvez me mettre les communications, s'il vous plaît? Alors, la première communication, le comité environnement. Vous allez recevoir, bien sûr, des documents, mais il se réunira le 9 avril à 18h30 et je souhaitais que ce comité environnement, qui, vous le savez, est paritaire et mixte, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas conseillers municipaux, conseillères municipales qui y siègent, mais j'ai pensé que, vu le nombre de sujets que nous allons évoquer, il était normal que je vous en informe et que tous les conseillers municipaux y assistent s'ils le souhaitent. Alors, quels sont les sujets? Tout d'abord, les fiches concernant l'agenda 21, puisque le travail qui a été confié à une personne que nous avons pris en stage est terminé. Donc, la communication des fiches agenda 21, M. Pereira pourra à ce moment-là les commenter. Deuxièmement, le deuxième sujet, c'est la société, comment elle s'appelle, Monsieur Henri Protéo, non, Téléo. Voilà, Téléo, puisque certains d'entre vous ont réagi à la mise en place du dispositif proposé par le CEDIF pour avoir un comptage à distance des compteurs d'eau potable. Donc, comme il y a eu un certain nombre de remarques, j'ai demandé à l'installateur et à celui qui est en charge de la part du CEDIF, l'implantation dans les différentes villes du CEDIF, de venir pour répondre à vos questions et proposer et présenter le dispositif avec, bien sûr, tous les éléments qui pourraient intéresser certains, notamment les niveaux de champs magnétiques qui sont assortis à ce dispositif. Troisième question, celle concernant un rapport qui est passé en commission des finances et que je n'ai pas inscrit à ce conseil, c'est celui de l'implantation d'une antenne relais sur un des pylônes du stade. Donc là, nous aurons reçu, je l'espère, M. Henri, le rapport technique, le document technique, pour le présenter à cette commission. Et le dernier point, c'est l'orientation qui va être prise au niveau de la communauté d'agglomération concernant les études préalables à l'installation sur nos deux communes, Nogent et Le Perreux, de 14 stations d'autolib dans les mois qui viennent, peut-être avant la fin de l'année, si tout se passe correctement. Donc voilà les sujets qui seront abordés dans cette commission environnement, à laquelle je vous conseille, si vous avez un moment, de venir y participer. La deuxième information que je voulais vous donner, c'est que nous sommes... Sandrine, la suite, s'il vous plaît. Ah, elle n'est pas là, la suite? Non, alors, bon, je l'annonce sans document. Je voulais vous dire aussi que nous venons de terminer une revue précise et très documentée sur tous les contentieux que la ville pilote avec des conseils extérieurs. Ce document, avant de le diffuser, je pense qu'il est préférable de faire une réunion de travail sur ces contentieux. Et notre collègue Yves Delman, à qui j'ai demandé de faire cette présentation, nous sommes en train avec lui de chercher une date que l'on pourra vous proposer pour faire une revue générale de ces contentieux, tous les contentieux, y compris le stationnement, le parking Saint-Germain, enfin un certain nombre de contentieux importants comme cela. D'autant que deux d'entre eux ont évolué durant les dernières semaines et qu'il était important que nous puissions en débattre préalablement hors d'un conseil municipal. Donc voilà les deux infos que je voulais vous communiquer. Et maintenant, donc, je vous demande... Alors, est-ce que vos tablettes fonctionnent? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, nous commençons par la reprise anticipée des résultats du budget primitif 2013, budget général. Donc je passe la parole maintenant à Karine Renouille, qui, autant que je le dise dès maintenant, avec les services et avec chacun des élus du conseil municipal chargé des différents secteurs des services municipaux a été, on appelle ça, des fois ça peut être considéré comme vulgaire, mais à la manœuvre, sérieusement, pour monter un budget comme celui qui va vous être présenté, budget qui répond aux attentes, qui répond à notre souci de qualité des services, de leur importance, et surtout aussi de, sous le thème importance pour moi, c'est aussi la diversité des services, mais aussi le fait qu'ils tiennent compte des solidarités entre les Nogentais. Ce budget qui va vous être présenté obéit à un certain nombre de règles que j'ai résumées 2-3 fois dans des documents que vous avez reçus. Je ne vais pas vous imposer une nouvelle déclaration préalable. Ce n'est pas la peine, on en a assez parlé. Et peut-être à la fin, nous pourrons commenter ce budget. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on avance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Karine. On avance, on présente l'ensemble du budget et puis on discute, on débat ensuite. Hein, je crois que c'est le plus simple. Et puis bien sûr, nous commençons d'abord par l'élément principal du budget. C'est-à-dire, c'est un peu la fondation, c'est la reprise anticipée. Voilà, à Karine Renouille.
Merci. Oui, donc il s'agit d'abord de la reprise anticipée des résultats cumulés, les résultats de l'exercice clos 2012, après que ceux-ci aient été attestés par le comptable public. Ils seront repris donc dans notre budget primitif qu'on va voir un petit peu après. Au 31-12-2011, on avait un excédent de fonctionnement de 9,8 millions. On a au 31-12-2012 9,039 millions. En termes d'investissement, on avait un résultat cumulé négatif de moins 2,5 millions. Et il est, comme vous voyez, pour cette année, de moins 1,250 millions. La somme des deux, entre le fonctionnement et l'investissement, fait que l'année dernière, nous avions un résultat à reporter dans le budget de 7 millions 238. Comme je le dis à chaque fois, l'objectif d'une commune, ça n'est pas de faire comme ça d'avoir un bas de laine à ce montant-là, c'est bien d'avoir un petit peu d'argent de côté au cas où nous arriverait quelque chose, mais c'est vrai que 7 millions 238, c'était pour moi un peu trop important. Et finalement, au 31-12-2012, on arrive, quand on additionne les 9 millions 039 et les moins 1 250, à 7 700 89. Donc on augmente encore ce résultat qui est cumulé, et ce qui n'était pas forcément le but, mais qui est très loin d'être une mauvaise nouvelle.
Bien, y a-t-il des remarques sur ce principe, parce que c'est avant tout un principe, puisque nous l'appliquons depuis le début de la mandature. Alors les reprises anticipées ont été différentes en montant. Celui-là, il est particulièrement élevé. Y a-t-il des commentaires? Il n'y en a pas. Pas d'abstention? Des votes contre? Je vous remercie.
Alors maintenant, on passe à la reprise anticipée des résultats concernant le budget annexe des parkings. L'année dernière, le total entre investissement et fonctionnement était de 1 149 000. Et cette année, il est de 36 000 plus 1 300 000, donc de 1 337 000. Donc à nouveau, nous avons augmenté nos résultats cumulés à la fin de l'année 31-12-2012. À nouveau, ça n'est pas le but, mais à nouveau, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Même question? Pas d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Donc là, nous entrons donc dans l'exercice 2013 et le vote du budget primitif. Principal.
Oui, donc il est... Oui, on ne va pas tout de suite voter. On va d'abord le présenter. Donc le budget général 2013 de la commune va s'équilibrer, évidemment, hein, on est obligé chaque année, section d'investissement et de fonctionnement. Les deux confondus seront d'un montant de 80 710 000, comparé à un budget primitif 2012 de 73 millions. Donc vous voyez une augmentation de 10% qu'on va détailler un peu plus tard. La section de fonctionnement va s'équilibrer à 47 562 000 euros, soit une évolution de 3,93% par rapport au BP 2012. Et la section d'investissement va s'équilibrer à 33 147 000 euros, dont 9 546 000, à la fois en dépenses et en recettes, pour l'opération Nogent-Baltard. Comme les exercices précédents, donc les résultats constatés et attestés par le comptable public de 2012 sont repris par anticipation. Vous voyez, c'est les 9 039 dont je vous parlais tout à l'heure. Le solde disponible va être affecté en réserve, c'est-à-dire en investissement pour 2 002 000 et puis une partie en fonctionnement pour 6 768 000 €. Donc vous voyez que les dépenses de fonctionnement vont être de 47 562 993 €. Nous allons prendre sur notre fonctionnement pour affecter aux travaux d'investissement à hauteur de 6 633 000. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Et nous allons aussi avoir d'autres recettes, des recettes d'investissement à hauteur de 26 millions d'euros, de façon à pouvoir dépenser en investissement 33 147 000 euros. Nous allons commencer par le budget des investissements. Les principales dépenses, vous les voyez sur ce graphique. Donc les plus grosses dépenses sont principalement les immobilisations corporelles, avec en particulier le Nogent-Baltard pour 9 546 000 euros. Nous avons aussi dans ces immobilisations corporelles des acquisitions foncières à hauteur de 3 707 000 euros. L'autre gros pavé, ce sont les travaux. 12 365 000 euros, nous allons les détailler un peu plus loin, et puis une somme de dépenses entre des reports pour 1 964 000 euros, un remboursement du capital des emprunts pour 1 600 000, et puis nous verrons les différentes étapes du graphique un peu plus loin. Donc lorsqu'on enlève le remboursement du capital de la dette et les reports, on obtient une somme de dépenses d'investissement de 27 723 000 euros. Là-dedans, le plus gros est évidemment l'opération de Nogent-Baltard, qui à nouveau figure à la fois en dépenses et en recettes, puisque c'est une opération qui est équilibrée, pour 9 958 000 euros. Les autres grosses dépenses sont la petite enfance, l'urbanisme pour 3 948 000 euros, les bâtiments, l'administratif et les autres bâtiments, le scolaire, et puis vous avez ici un peu tous les détails sur cette page. Donc on va détailler le secteur administratif et autres bâtiments. Donc on avait dit qu'il y en avait pour 2 529 000 euros. Quasiment la moitié de cette somme, c'est la construction d'une maison annexe des associations, comme vous allez le voir un peu plus loin. On a un détail là-dessus, avec aussi des travaux à l'hôtel de ville et dans ses annexes pour 405 000 euros, du mobilier, du matériel divers pour 224 000 euros, du matériel informatique pour 109 000 euros, la couverture du Nogentel pour 118 000 euros et puis différents travaux de mise en sécurité pour 263 000 euros. Ça, c'est pour les investissements dans le secteur administratif.
Alors là, c'est simplement une vision du projet qui va être réalisé, disons, cet été et qui devrait être mis en service, si tout se passe correctement, à la fin du mois de septembre. Surface utile, 724 mètres carrés. Démarrage des travaux, normalement, en ce moment, depuis hier, je crois. Livraison fin septembre 2013. C'est un bâtiment modulaire à simple rez-de-chaussée qui est conforme à la réglementation thermique et qui est en bâtiment basse consommation. Le programme, c'est deux grandes salles polyvalentes, 250 mètres carrés chacune, dont une dédiée à la danse, ce qui était le cas rue Smith-Champion. Deux salles de 50 mètres carrés pour d'autres activités, loge de gardiens, stockage sanitaire, une vestiaire douche. L'ensemble a pour un coût prévisionnel, mais la mise en concurrence et le marché n'ont pas été lancés puisque nous n'étions pas passés devant le Conseil. C'est environ 1 million d'euros, estimé à 1 million d'euros. Nous verrons peut-être que nous aurons de bonnes surprises sur le résultat de la consultation.
Nos investissements en termes d'hygiène et de sécurité publique, 412 000 euros, une grosse partie, c'est la police municipale pour l'acquisition et l'installation de 13 nouvelles caméras de vidéosurveillance. On peut noter aussi l'acquisition de défibrillateurs et l'installation de ces défibrillateurs. Les investissements au niveau du secteur scolaire, principalement des investissements au niveau du groupe scolaire Léonard de Vinci, 300 000 consacrés à la couverture du préau et 200 000 euros pour l'isolation acoustique et enfin 50 000 euros pour la création d'un espace récréatif. Ensuite, nous avons l'élémentaire Paulbert-Guimauquet, où il y aura différents travaux pour 235 000 euros. La maternelle de Fontenay, pour, avec une mise aux normes de deux classes pour 203 000 euros. Des études pour la reconstruction et l'extension éventuelle de l'école maternelle Victor Hugo. Et puis, voilà, à nouveau aussi, la réhabilitation du groupe scolaire Marie Curie, rue Smith-Champion, pour 150 000 euros. Et puis un petit peu de mobilier scolaire, quelques travaux à l'élémentaire Val de Beauté, et puis des provisions diverses pour 106 900 euros. Nous investissons aussi dans le secteur de la petite enfance, là pour 3 701 900 euros, principalement grâce à la crèche de Moulin de Beauté qui est évaluée aujourd'hui à 3 millions d'euros, sur laquelle nous aurons des subventions à hauteur probablement de 20% du projet. Nous investissons aussi pour la création d'un RAM rue de Fontenay pour 320 000 euros, un relais d'assistante maternelle. Et puis, il y a des investissements au niveau des crèches Mandarine et Trois Pommes pour 118 000 euros et puis différentes mises en conformité matérielles pour le reste. Donc, principalement dans le secteur de la petite enfance, c'est la crèche Moulin de Beauté et puis la création du RAM.
Donc, concernant la crèche Moulin de Beauté, quelques chiffres. Une surface utile de 770 mètres carrés, capacité 60 berceaux, ce qui, dans le cadre d'un multi-accueil, permettra de satisfaire les attentes de plus de 80 familles, c'est cela, Véronique, à peu près. Coût prévisionnel, on vient de vous le dire. Le permis de construire a été délivré aujourd'hui, début des travaux en mai, avec ouverture fin février, début mars. C'est une maison passive. Pour ce projet, nous visons notamment l'obtention du label maison passive qui permettra d'atteindre un niveau de performance élevé en ce qui concerne l'isolation thermique. Et ce niveau sera largement supérieur à ce qu'exige la RT 2012 et engendrera par conséquent des économies d'énergie importantes dans la mesure où les besoins en chauffage complémentaire sont très limités. À titre d'exemple, la puissance de la chaudière sera de 17 kW, ce qui équivaut aux besoins d'un petit pavillon. Elle devrait être la première, si tout se passe normalement, en France, à obtenir ce label. De toute façon, nous y travaillons.
Investissement au niveau du sport et de la jeunesse pour 1 909 000 euros, principalement des travaux dans le centre nautique pour 628 000 euros, différentes acquisitions de matériel pour 525 853. Il s'agit de l'aménagement du parcours de santé sur la future promenade des bords de Marne, l'acquisition et l'aménagement de jeux sur la promenade et puis la provision pour la réalisation d'un terrain de foot sympathique. Synthétique. Il sera sympathique et synthétique. Nous avons 166 282 euros pour la pose de revêtement de sol dans la salle de musculation, des plantations d'arbres, une installation d'un espace remis en forme au parc Watteau. 317 000 euros pour la réhabilitation des gymnases, leur étanchéité, peinture, remplacement de menuiserie. 200 000 euros pour la réalisation des études de faisabilité pour le stadium Christian Maudry, qui est prévu, vous le rappelez, vous vous souvenez, sur les terrains SNCF de la rue Jean Monnet. 71 000 euros pour l'installation d'un compteur jaune et diverses reprises de sol, de peinture, de menuiserie, de plomberie. Et puis un petit peu de renouvellement de matériel pour les clubs de loisirs et découvertes. Au niveau du secteur culturel, 1 108 610 euros, 30 000 euros de provision pour la mise en sécurité électrique, 10 700 euros à la bibliothèque qui permettront la réhabilitation de la section jeunesse, la peinture, les mobiliers, 112 000 euros pour s'assurer de la réfection totale des systèmes d'éclairage LED, 43 000 euros pour l'aménagement acoustique du conservatoire, sa remise en peinture, des salles d'exposition, 380 000 euros pour la salle Émile Zola pour les travaux de couverture et d'étanchéité de la toiture verrière, 250 000 euros pour la réhabilitation du sol et l'installation d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite au pavillon Baltard, 135 000 euros pour la réfection des sièges et gradins de la grande salle de la Seine-Watteau, 123 500 € de provisions pour la création d'un cheminement d'accès PMR vers l'entrée latérale et la reprise de maçonnerie dans la sacristie de l'église Saint-Saturnin, 5 000 € d'œuvres d'art et 13 910 € de renouvellement d'instruments de musique pour le conservatoire. Donc en tout, l'investissement dans le secteur culturel, un peu plus d'1 million d'euros. Au niveau du secteur social, nous avons fait des provisions pour travaux dans les logements d'urgence et des travaux également au foyer du Cèdre, tout ça pour 52 200 €. Au niveau des espaces verts, nous avons l'expertise du patrimoine arboré pour 20 000 €, la création de sites arborés pour 14 000 €, des mises en conformité obligatoires pour 49 000 €, la plantation et la replantation suite au programme d'abattage des arbres morts ou malades pour 128 000 €, ça concerne 100 arbres, 19 000 € pour l'acquisition de matériel nécessaire à l'activité des agents du service, 75 000 € pour le remplacement des sols souples des jeux d'extérieur et l'installation de nouveaux jeux, et 112 000 € pour l'aménagement du nouveau parc Legendre Chéron.
Je souhaiterais que nous revenions sur le secteur social, simplement pour rappeler un point. La somme que vous voyez ici, c'est dans le budget, bien sûr, primitif de la ville. Au niveau du CCAS, nous venons de voter le budget du CCAS et notamment les budgets annexes des foyers, le Cèdre et les Villemains. Et dans les semaines qui viennent, nous aurons une séance du conseil d'administration au cours duquel nous aurons à nous prononcer sur le budget supplémentaire qui permettra de faire un virement du budget principal au budget du foyer Le Cèdre pour alimenter la totalité des travaux sur les logements du Cèdre. Il y a une provision pour travaux dans les logements d'urgence, mais il y a aussi 16 logements du Cèdre qui seront réhabilités, si possible, dans l'année qui vient, pour un montant d'environ, et ça sur le budget du CCAS, de l'ordre de 100 000 € à peu près. Alors ensuite, une question, on va passer à la diapo suivante. Concernant les arbres, de temps en temps, on me pose la question sur le nombre d'arbres que la ville entretient. La ville entretient 4 600 arbres sur le territoire de la ville. En particulier, il y a les arbres d'alignement sur les voies communales. Les voies départementales, le Conseil général entretient 981 arbres. Et vous l'avez entendu, Karine vient de le dire, dans ce budget, nous avons la plantation d'une centaine d'arbres.
Nous comptons investir sur notre voirie près de 2 millions d'euros, principalement sur des voiries de troisième... travaux de voirie de troisième phase dans le plan pluriannuel, 1 482 000 euros. Cela correspond au secteur Paul Bert, Guy Moquet, André Pontier, rue Pasteur, rue du Lac, rue Thiers, trois petits points. Nous avons également la poursuite du plan signalétique et marquage au sol pour 110 000 euros, 230 000 euros pour l'éclairage public et le renouvellement de réseaux vétustes, l'extension, remplacement des candélabres et la mise en peinture des candélabres existants, 25 000 euros pour le remplacement des bornes incendie, des relevés topographiques pour 10 000 euros, des remplacements des illuminations par des guirlandes LED pour 15 000 euros et le renouvellement de mobilier urbain pour 86 000 euros. Au niveau de l'urbanisme, nous comptons investir en termes de réserves foncières pour 3 693 000 euros. Et puis, il y a la deuxième fraction de l'acquisition en VEFA du parc Legendre Chéron pour 213 000 euros. Donc, pour la réalisation des opérations d'urbanisme de la ville, nous comptons acquérir des parcelles situées deux routières, deux lots de copropriété estimés respectivement à 138 000 et 125 000 euros. Il y a aussi la deuxième fraction de l'acquisition des terrains SNCF que nous avions acquis sur deux années, en 2012 et en 2013, chaque année pour 1 200 000. Donc pour l'année prochaine, ce sera 1 200 000. Nous passons une provision pour des terrains RATP, place Pierre-Sémard avec l'ancienne gare, que nous évaluons aujourd'hui à 2 millions d'euros. Et puis donc il y a la deuxième part de l'acquisition en VEFA du parc Legendre Chéron pour 213 000 euros. Les frais annexes inhérents à tous actes notariés sont provisionnés à hauteur de 174 000 euros. Nous avons également 100 000 euros d'aide foncière pour la réalisation de logements sociaux. Et enfin, une provision de 41 490 euros destinée au financement d'une extension de puissance du réseau électrique en fonction des opérations de construction réalisées sur le territoire de Nogent. Ces demandes sont adressées à la commune par ERDF et contrôlées par le CIPEREC avec lequel nous avons conclu un partenariat qui valide ou non les devis présentés par ERDF. Un petit mot sur le centre d'affaires Nogent-Baltard. C'est donc une opération qui s'équilibre en dépenses et en recettes. 9 518 000 pour les terrains RATP. C'est une opération neutre puisque la revente des terrains sera concomitante à l'acquisition des parcelles. Seule une parcelle, une seule parcelle sur la totalité acquise restera propriété de la ville. Nous avons 440 000 euros destinés à l'aménagement d'une gare routière provisoire et le dévoiement des réseaux nécessaires à la réalisation du chantier. Par ailleurs, il convient de rappeler que la RATP et le STIF cèdent leur emprise foncière en l'état et occupée. La ville les acquiert en l'état et cède dans les délais les plus brefs à Eiffage Immobilier les charges liées aux opérations de démolition, de traitement et de libération des sols.
Un complément d'information. Nous avons rencontré Eiffage il y a quelques jours et Eiffage va installer une bulle de vente sur les anciens terrains où étaient implantés les espaces verts de la ville. Et la commercialisation de la partie immobilière va commencer dans les semaines qui viennent.
Alors maintenant, comment allons-nous financer ces différentes dépenses d'investissement? Vous allez le voir tout de suite. Les recettes d'investissement contribuent à la réalisation donc des équipements de la collectivité. Nous avons des recettes réelles et d'ordre qui sont regroupées au sein de différents chapitres et pour un total de 33 147 000 euros, le même montant que les dépenses, bien évidemment, puisque nous devons tout équilibrer. On va voir tous ces chiffres très précisément. Vous commencez là à voir la liste des différentes recettes d'investissement que nous avons. On peut signaler l'opération de Nogent-Baltard, donc on voit là ici en recettes et qu'on voyait juste avant en dépenses. Une petite note aussi sur le virement de la section de fonctionnement. Vous verrez que nous finançons une partie de notre investissement grâce aux économies que nous faisons entre les dépenses et les recettes de fonctionnement. Et cette année, nous arrivons à prendre ponctionné sur le budget de fonctionnement 5 782 166 euros qui nous permettent ici de réinvestir en investissement.
Une précision concernant le PLD Nogent-Baltard, c'est une somme que nous attendons. Nous avons déjà reçu 2 millions sur cette somme de 4 617 000 de la part des phages.
Voilà, vous voyez aussi qu'on a prévu d'emprunter pour 2 170 000 euros. Je pense que ça sera un petit peu moins parce qu'en règle générale, on met toujours un peu trop de dépenses dans notre budget. En tout cas, on est toujours très prudent et souvent on ne réalise pas l'ensemble des dépenses qu'on met dans le budget. Et donc, la variable d'ajustement est l'emprunt. Voilà, et c'est pour ça que vous verrez plus tard que la délibération qu'on va passer est d'1,5 million, mais même 1,5 million, il y a des chances pour qu'on n'ait pas besoin de les utiliser, mais il y aura quand même une délib pour 1,5 million. Donc. Donc, sauf s'il y a des questions sur... ou j'enchaîne sur le budget de fonctionnement.
Non, on peut s'arrêter quelques instants sur...
Sur la partie investissement.
Sur la première partie, à moins que vous souhaitiez qu'on avance et qu'on passe le budget de fonctionnement et vous interviendrez sur l'ensemble. Bien, bah alors nous continuons.
D'accord. Donc le budget de fonctionnement. Donc pour vous rappeler les grands principes du budget de la ville. Donc le budget d'investissement sont des dépenses qu'on fait, qui sont des dépenses à long terme, qui ne peuvent donc voilà, qui c'est le seul cas où on a le droit de faire des emprunts, c'est-à-dire pour financer des opérations à long terme. Ici, c'est le budget des dépenses de fonctionnement qui revient donc chaque année, qui sont principalement, comme vous voyez sur ce graphique, les charges de personnel de la ville, qui sont à hauteur de 23 347, donc sur 47 millions d'euros, des charges à caractère général pour 10 669 000 euros. On retrouve là l'argent qu'on a viré. Je vous ai dit, quand on fait les dépenses moins les recettes moins les dépenses, on arrive à économiser 5 782 qui est viré à la section d'investissement. C'est-à-dire qu'on utilise des recettes de fonctionnement pour investir, ce qui est plutôt sain. Nous comptons recevoir des subventions à hauteur de 4 085 000 euros et puis différentes dépenses qu'on va pouvoir détailler. Donc, pour rappel, le budget de fonctionnement est composé donc des charges de gestion courante, des charges de personnel, des subventions, des charges financières. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans le tableau d'avant. Les charges financières, ici, ce n'est pas le remboursement du capital des emprunts, mais les intérêts des emprunts. Quelques charges exceptionnelles et puis les 5,7 millions donc, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le virement à la section d'investissement. Pour les principales dépenses, c'est donc celui du personnel qui représente 57,36% des dépenses réelles de fonctionnement. L'effectif des agents communaux, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, est de 424 titulaires, 182 non-titulaires et 19 agents répartis entre les assistantes maternelles, les activités accessoires, les CDI, CAE et apprentis. Comme vous le voyez, l'effectif budgétaire entre 2011 et 2013 évolue assez peu. 634, puis 624, puis 625. Ceci dit, nous avons une augmentation des charges de personnel en 2013 qui sont dues à différentes augmentations de taux de cotisation, centres de gestion, CNFPT, IRCANTEC, l'URSSAF, l'augmentation aussi des taux de cotisation d'accidents du travail, la revalorisation pour les 6 premiers échelons de la fonction publique territoriale, il y a quand même 333 agents qui ont été concernés, la revalorisation du SMIC, et l'application au 1er janvier, ce qu'on a décidé ici tous ensemble, de la contribution employeur pour les cotisations mutuelles, ce qui représente 100 000 euros. Donc, par rapport à l'année dernière, nos dépenses de personnel ont augmenté. Donc, certaines sont... ça n'est pas lié à une augmentation du nombre de personnes qui travaillent pour la ville, mais à une augmentation du coût individuel, principalement à cause des charges sociales, aussi parce que nous avons décidé ensemble de fournir une mutuelle et donc de contribuer à hauteur de 100 000 euros pour leur permettre d'avoir une mutuelle. Et puis, également, nos agents passent des concours qu'ils réussissent et qui leur permettent aussi d'avoir des augmentations. Donc, tout cela fait que nos charges de personnel ont augmenté par rapport à l'année dernière. En termes de personnel par secteur d'activité, les différents, ce qui génère le plus d'agents, c'est tout ce qui est scolaire et club de loisirs, où nous avons 151 agents. Nous avons 124 agents qui travaillent au niveau de l'administration générale, 120 agents au niveau des services techniques, 58 agents pour la petite enfance, 48 agents pour la sécurité publique, 42 agents au niveau du conservatoire de musique. Je rappelle que le conservatoire de musique auparavant n'était pas internalisé, ce qui explique aussi l'augmentation des charges de personnel, mais non pas par rapport à l'année dernière où nous avions déjà 11 mois de ces personnes, mais surtout par rapport à l'année 2011. Au niveau de la culture, nous avons 22 agents et au niveau du social, 10 agents. Pour réaliser une partie des investissements, la commune recourt donc à l'emprunt. Sachez qu'en 2012, la ville a signé un contrat de 1 million d'euros, ce qui représente 11,27% de couverture par emprunt des investissements réalisés en 2012. C'est-à-dire que nous avons réussi à financer hors emprunt nos investissements en 2012 à hauteur de près de 90%. Donc pour 10%, nous avons souhaité réaliser un emprunt pour 1 million d'euros. Vous avez ici sur ce tableau la présentation de l'encours de la dette communale au 1er janvier. Vous voyez qu'en 2009, nous étions à autour de 20 millions d'euros. Nous sommes descendus en 2010-2011 où nous n'avons pas emprunté jusqu'à 18 millions d'euros. En fait, on a emprunté toute fin 2011, mais c'est tombé début... Non, toute fin 2010, mais c'est tombé début 2011. Enfin, bref. Donc, il y a eu facialement une grosse augmentation entre 2011 et 2012, où nous sommes remontés à 22 millions d'euros. En 2013, nous sommes à 21 846 millions. Et fin 2014, au cas où nous n'emprunterons pas, nous serions à 20 millions, sachant que si nous empruntions 1 million ou 1 million 5, on sera autour de 20, enfin à peu près comme aujourd'hui. Donc vous voyez qu'entre 2009 et 2013, nous avons progressé de moins de 2 millions pour avoir réalisé, tout en ayant réalisé des investissements proches en moyenne de 9 millions d'euros par an. Donc finalement, vous faites 9 millions multipliés par toutes ces années et vous voyez que voilà, on a emprunté 2 millions d'euros en tout pour financer l'ensemble de ces investissements. Ce qui n'est pas du tout un mauvais résultat.
Sur
ce graphique, j'ai une question parce que
oui.
Justement,
attendez,
on
avait dit qu'on posait des questions à la fin.
Là, c'est vraiment super ponctuel, une question super ponctuelle. Moi, sur les chiffres que j'ai donc sur finance.gouv.fr, je vois 22 333 en 2011. Et là, ça apparaît à 18 006. Qui a raison, qui se trompe? J'ai le document là, si vous le souhaitez.
Écoutez, nous n'allons pas discuter de cela tout de
suite.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, éventuellement, avoir une explication.
D'accord.
Pas de problème. Nous avons ensuite l'évolution de l'annuité de la dette entre 2008 et 2016. Vous voyez ici qu'on évolue entre un peu moins de 2 millions et 2,6 millions en 2013, et puis ça redescend. Notre profil d'extinction de la dette. Un ratio mesure la capacité de désendettement d'une collectivité. Il est calculé sur la base des résultats qui sont constatés au compte administratif et ça permet de déterminer le nombre d'années qu'il nous faut pour rembourser la totalité du capital de la dette. Si fin 2007, nous n'avions plus emprunté du tout, en 5 années, nous aurions pu rembourser, 5,3 années, nous aurions pu rembourser l'encours que nous avions à l'époque qui était de 18 413 000. Fin 2012, nous sommes à 21 millions 846 000 euros, et il nous faut 5,3 années également pour éteindre notre dette quand on regarde notre capacité de désendettement, hein, qui est à nouveau calculée sur la base des résultats qu'on constate au niveau du compte administratif. Donc, il s'agit de rapporter, donc on rapporte ici l'encours de la dette au 31 décembre à l'épargne brute qui est dégagée par la collectivité. Si, par exemple, on souhaitait consacrer la totalité de notre épargne brute à compter du 1er janvier 2013 au remboursement de l'encours de la dette, il faudrait 6,78 années pour apurer sa dette globale. Dans sa publication du 20 décembre 2011, je veux juste vous signaler que le journal du Parisien publie un article sur « Votre ville est-elle trop endettée ?» donc le 20 décembre 2011, c'était il n'y a pas si longtemps, avec un classement des villes du département du Val-de-Marne. Et selon leur étude, nos gens se situaient en 2010 parmi les 19 villes faiblement endetté, avec un niveau d'extension à l'époque qui était de 4,97 ans. Donc, on a résumé ici à 5 années, fin 2010. Donc, on verra aussi, suivant les ratios, vous verrez que si on compare aux villes qui sont de la même taille que nous, nous sommes à peu près 700 euros. Si on divise le capital par le nombre d'habitants, disons que chaque Nogentais doit 700 euros à la banque, alors que la moyenne des villes de notre taille est plutôt autour de 1200, quelque chose comme ça de mémoire, mais on va regarder tout à l'heure les différents ratios. Donc voilà, on n'a pas beaucoup augmenté notre endettement entre 2008 et 2012, et malgré tout, on a réussi à faire beaucoup d'investissements. Donc vous avez ici la durée apparente de la dette qui mesure la durée théorique annuelle des emprunts conclus par la collectivité depuis 2007. Il ressort que la durée moyenne des emprunts contractés est de 15 ans avec un niveau d'extinction de la dette de plus 6 ans. Ici, vous avez un résumé des variations de l'encours depuis 2008 et on y a inclus les emprunts nouveaux. Donc l'encours au 31-12-2008 était de 20 341 000 euros. Nous avons amorti pour 1 138 000 euros, ce qui a fait baisser l'encours à 19 203 000. Et comme on n'a pas fait de nouvel emprunt, voilà, l'encours était de 19 203 000. Ensuite, nous avons à nouveau remboursé une partie du capital de cette dette et descendu en 2010 à 18 006 000. C'est là où il y a... en 2011, vous voyez que nous avons inscrit un nouvel emprunt pour 5,5 millions. Donc, suivant qu'on considère que c'est le 31 décembre ou le 1er janvier, il y en a une partie qui peut figurer sur 2010 ou une partie sur 2011. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'à la fin de 2011, qu'on considère qu'en 2010, c'est 21 millions ou c'est 18 millions, à la fin de 2011, je vous rassure, c'est 22 281 000, puisqu'on prend 18 006 000, on enlève les 1 225 000 de capital qu'on a remboursé, on arrive à un encours à 16 781 000. Là, ici, je compte un nouvel emprunt, non pas de 2,5 millions, mais de 5,5 millions. Et donc, on arrive à un encours de 22 281 000. Ensuite, on rembourse l'année d'après 1,4 million, mais on fait un nouvel emprunt de 1 million. Donc, on baisse un petit peu notre encours et on arrive à 21 846 000. En 2013, on prévoit un amortissement de 1,6 million. Et si on empruntait 1,5 million, on arriverait à un encours de 21 669 000. Donc entre 2008 et 2013, nous passerions de 20 341 000 en cours à 21 669 000. Sachez qu'en 2014, on remboursera 1 551 000, mais on ne sait pas encore combien on empruntera. Nous allons aussi, dans nos dépenses de fonctionnement, nous avons toutes les subventions aux associations qui représentent cette année, comme les autres années, un peu plus d'1 200 000 euros. Et là-dessus, je vais passer la parole à Michel Nataf et Stéphanie Hirt.
Je pensais que c'était après, pendant la délibération sur les subventions. Oui, on va le faire après.
D'accord. Donc, pour l'instant, on passe. Je dis juste qu'il y a une enveloppe et on laisse tout le secret sur l'enveloppe à hauteur de 1 222 000 euros. Les établissements publics et les délégations pour 2 842 000 euros. Qu'est-ce qu'on a comme... établissements publics et autres délégations, nous avons principalement le CCS, le Centre communal d'action sociale, 750 000 euros. La DSP Vermarine, Nissiros, c'est la piscine et le port, pour 868 000 euros. La Seine-Vato, 642 000 euros. 535 000 euros pour les DSP Jardin des Lutins et Mandarines. Là-dessus, c'est vrai que nous avons renégocié le contrat avec ces délégataires et à notre avantage. Et puis, une subvention pour un événement qui existe, une biennale, qui est le Baltard Contemporain pour 47 000 euros. Donc les différentes charges de fonctionnement, y compris les frais de personnel, par différentes fonctions. Nous avons pour les services généraux, donc tout ce qui est services administratifs et techniques, le CTM, le juridique, l'informatique, la communication, l'état civil, les élections, les achats, la dette et les impôts. Je rappelle que ça contient les dépenses de personnel. Nous dépensons 12 587 000 euros. En termes d'hygiène et sécurité publique, les actions de prévention, d'ilotage, 2 372 000 euros. L'enseignement, les maternelles, élémentaires, l'action périscolaire, les clubs de loisirs, la restauration scolaire, les transports scolaires et le sport scolaire, 6 091 000 euros. La petite enfance, crèche familiale et multi-accueil, donc hors DSP, 3 517 000 euros. Le sport et la jeunesse, 6 829 000 euros, c'est le CNIS, le Centre Nogentec d'initiation sportive, les équipements sportifs, le pôle jeunesse et la MJC. Au niveau de la culture, nous dépensons 3 313 000 euros, c'est le musée, la bibliothèque, le théâtre, le conservatoire de musique, les expositions et différentes manifestations. Le budget social, lui, représente 980 000 euros, ce sont les personnes âgées, maintien à domicile, restauration, voyage, activités seniors. Le logement, 103 000 euros, c'est la gestion des dossiers de demande de logement locatif aidé. l'aménagement urbain et l'environnement pour 4 907 000 euros, l'éclairage fleuri, l'éclairage public, le fleurissement, l'entretien espace vert, jeux d'extérieur, urbanisme et PLU. Donc au niveau du fonctionnement, c'est vrai qu'on dépense, mais heureusement, nous avons aussi des recettes que vous voyez détaillées ici. Donc principalement, nos recettes pour nos dépenses de fonctionnement proviennent des impôts à hauteur de 21 019 000 euros. Ça, c'est pour les impôts locaux. Différentes taxes pour 6 690 000 euros. Là-dedans, il y a par exemple la dotation, les droits de mutation, pardon. Nous avons vu en tout début de ce conseil que nous avions un excédent reporté. Donc ça, c'est ce qui nous permet, c'est les économies que nous avions faites sur les exercices antérieurs peuvent nous profiter pour cette année. Et ces économies représentent aujourd'hui 6 769 000 euros. À nouveau, le but, c'est de dépenser une partie de ces excédents. Ça n'est pas de continuer à réaliser à chaque fois des excédents. Au niveau des dotations et participations, nous avons des recettes à hauteur de 8 593 000 euros. Donc voilà principalement les principaux produits, les principales recettes de fonctionnement que nous avons, qui sont donc principalement la fiscalité, mais aussi les aides de l'État, d'autres concours financiers, des produits des services que nous réalisons, d'autres recettes, et puis donc les plus de 6 millions d'euros, qui est la reprise anticipée des résultats cumulés sur les dernières années. Au niveau de la fiscalité, nous avons une excellente nouvelle, c'est-à-dire que comme en 2008, comme en 2009, comme en 2010, comme en 2011, comme en 2012, en 2013, le taux des impôts seront identiques, c'est-à-dire 15,46% pour la taxe d'habitation, 19,06% pour la taxe foncière bâtie et 69,55% pour la non bâtie. Ce qui nous donne un total avec, en mettant les différentes bases, sachant que l'État nous a fait revaloriser les bases communales à hauteur de 1,8%. Donc les produits qui sont attendus compte tenu de tout cela sont de 21 019 000 euros. Ce qui représente 51% des recettes communales pour le budget de fonctionnement. Vous avez ensuite l'évolution de nos bases fiscales réelles de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Entre 2008 et 2012, la progression a été de 12,47% pour ce qui est de la taxe d'habitation et de 11,73% pour les bases de foncier bâti. Vous avez ici tous les détails de cette augmentation. Donc 2013, 69 179 pour ce qui concerne la taxe d'habitation et 54 millions pour ce qui concerne la taxe foncière. Nous avons pris la décision cette année encore, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, comme l'année d'encore avant, enfin je ne vais pas vous le refaire, pris des dispositions en termes d'allègement de la taxe d'habitation. La ville applique des taux d'abattement sur la valeur locative moyenne annuelle. Ces abattements diminuent les bases fiscales qui reviennent à la commune et sur lesquelles est ensuite calculé l'impôt. Comme vous le voyez sur ce tableau, vous avez ici les différents taux qui ont été accordés par la commune, sachant que donc il y a un abattement général pour toute la ville à hauteur de 15%. C'est-à-dire qu'on prend la base et on fait moins 15%, puis on multiplie par notre taux. Ça concerne 14 087 personnes et ça représenterait une base de 11 190 120. C'est juste pour vous dire que si jamais nous n'appliquions pas cet abattement général à la base de 15%, ça n'est pas obligatoire puisqu'il est facultatif, il doit être entre 1 et 15%, donc on pourrait très bien avoir 1%. 11 millions de bases multipliées par notre taux, c'est quand même plus d'un million d'euros d'impôts que nous pourrions avoir en plus si nous prenions une décision contraire. En termes d'abattement pour charges de famille, le réglementaire, c'est 10% pour une ou deux personnes et 15% pour trois personnes et plus. Et nous avons choisi, cette année encore, 15% et 25%. Et puis, il y a un abattement spécial à la base pour les personnes à faible revenu. C'est un abattement qui est facultatif, de 1 à 15%, et nous avons choisi 10% pour les personnes, enfin, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'aucun changement depuis 2008 là-dessus, 10% pour les personnes à faible revenu et 10% pour les personnes à pour les personnes handicapées. Ce qui fait que si on additionnait l'ensemble de ces bases et qu'on multipliait par nos différents taux, il y a plus de 2 millions d'euros ici d'imposition que nous choisissons de ne pas imposer.
Sachant que 1% de taxes est à peu près au niveau de 190 à 200 000. On peut le traduire très facilement en pourcent de taxes sur la taxe d'habitation. Notre volonté depuis notamment 2008, puisque ces pourcentages n'ont pas changé depuis, était d'intervenir au titre de la péréquation et des solidarités en nous-mêmes, mais en amont. Plutôt que de traiter les problèmes de solidarité par le canal du Centre communal d'action sociale, nous avons toujours pensé qu'il valait mieux le faire le plus en amont possible. Et quand on voit que 14 000 foyers bénéficient de l'abattement général de 15%, on s'aperçoit quand même de l'effort de solidarité que la ville, que nous tous faisons vis-à-vis des personnes en difficulté. Il faut aussi dire que depuis 3 à 4 ans, nous avons une augmentation très sensible du nombre de familles monoparentales qui créent justement des besoins et qui, au niveau du CCAS, sont de plus en plus présentes. Un autre point, en dehors par conséquent de ces dispositions d'allègement, la décision qui a été prise dans le budget 2012 déjà a été concernant la restauration scolaire entre autres, a été non pas de traiter les impayés directement sur le budget de la restauration scolaire, mais de les traiter, ces impayés, dans le cadre du CCAS, qui a maintenant une dotation spéciale pour l'intervention auprès des familles en difficulté. Et alors que nous intervenions aux alentours d'une dizaine, voire une quinzaine de personnes par an dans ce domaine, nous sommes arrivés à plus de 200, hein, je crois, Christine. Donc, ce qui veut dire que les processus qui ont été mis en place permettent quand même de ne pas oublier des familles ou des personnes, puisqu'on les traite le plus en amont possible.
Donc nos recettes de fonctionnement viennent de la fiscalité, mais ça vient aussi de la dotation globale de fonctionnement que nous verse l'État. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici l'évolution de cette dotation globale. Et vous pouvez voir que depuis 2009, petit à petit, l'État se désengage un petit peu pour nous aider dans nos recettes de fonctionnement. Bon, rien de dramatique, mais quand même 250 000 euros de moins. Oui, déjà, on n'a pas vu 2014. Et quand même 250 000 euros de moins entre 2009 et 2013, avec une population qui a légèrement augmenté. Donc c'est un vrai manque à gagner quand même, et une vraie aide en moins de l'État pour nos dépenses de fonctionnement. Une autre grosse source de recettes dans cette ville qui plaît beaucoup et qui permet aux gens d'acheter et de vendre des maisons. Et au passage, c'est vrai que la ville touche des droits de mutation, qui représentent quand même 4% de nos recettes réelles de fonctionnement. Donc c'est une très grosse recette pour la ville. On a beaucoup de chance. Malheureusement, cette recette fluctue. Et elle fluctue en fonction des conditions de marché immobilier, des taux d'emprunt. Et parfois, on a un petit peu du mal à l'évaluer et à voir comment elle va évoluer et à anticiper son évolution. En 2009, nous avons vraiment eu une très grosse chute, parce que ça représente quand même 1 million d'euros en moins. 1 million d'euros en moins sur le budget de fonctionnement, c'est pas du tout négligeable. Entre 2008 et 2009, nous avons perdu 1 million, que nous avons récupéré entre 2009 et 2010. Et puis, miracle, en 2011, là, on a explosé tous les compteurs avec 3 302 000 euros, ce qui nous a permis, en 2011, vous le verrez plus tard, d'avoir un excellent excédent qui qui n'est pas vraiment due de notre fait. Je ne peux pas vous dire qu'on a eu cet excédent parce que vraiment on avait économisé les coûts. En fait, on a eu voilà, une recette vraiment exceptionnelle en 2011 qu'on a prise. En 2012, voilà, on revient plus à la normalité autour de 2 300 000 euros. Donc notre excédent baisse en 2012, forcément. Il manque 1 million d'euros de recettes de droits de mutation par rapport à 2011. Et puis bah, pour 2013, on pense être prudent en mettant 2 millions d'euros. On est prudent par ailleurs aussi. L'année dernière, pour 2012, nous avions été prudents en mettant 2 millions d'euros. Donc nous avons une bonne surprise en ayant eu 2 326 000 euros. Pour le moment, les premiers mois nous laissent espérer d'arriver au moins à nos 2 millions d'euros. Après, voilà, on n'est pas du tout à l'abri d'une catastrophe comme il a pu arriver en 2009. On a dans ces cas-là des réserves à droite, à gauche, au cas où. Mais voilà, sachez que l'évolution de ces droits de mutation, nous n'y sommes pour rien, nous, en tant que ville. Voilà, des fois, il y a des bonnes surprises, comme en 2011. Du coup, on a un bon excédent. Et puis, des fois, on a des plus mauvaises surprises.
Oui, à titre indicatif, actuellement, la ville se situe sur ce type de transaction encore en positif par rapport aux années précédentes. Nous sommes sur plus 1,6-1,9% par rapport à l'année précédente. D'autres villes sont plutôt en négatif. Donc il y a actuellement encore ce que j'appellerais un frisson en matière de droits de mutation.
Donc au niveau de notre épargne, notre excédent brut courant, c'est le produit des services, plus les ressources fiscales, plus les dotations de l'État, plus les autres subventions et participations, et on enlève les achats et charges externes, les impôts et taxes et les charges de personnel. Comme vous voyez, donc notre excédent brut courant, il suit un petit peu la courbe des droits de mutation. Donc on fait des efforts chaque année pour essayer de rationaliser nos coûts, on fait des efforts pour essayer de trouver des nouvelles recettes, mais voilà, les droits de mutation évoluent comme ils évoluent, et vous voyez qu'en 2011, il y a, bon, voilà, tant mieux, il y a eu une bonne surprise qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce résultat cumulé de plus de 9 millions d'euros. Mais voilà, en 2012, nous avons eu des droits de mutation plus normaux, et donc nous avons légèrement diminué cet excédent brut courant. Pas de panique cependant, vous voyez qu'on est au-dessus de 2010 en 2012, on est à peu près au niveau de 2009 et on est au-dessus de 2008. Donc bon, voilà, on a un excédent brut courant qui évolue, mais qui tourne quand même à près de 4 millions d'euros chaque année. Il y a pas mal de villes qui aimeraient avoir ce type de chiffres. Donc on a ici nos marges d'épargne, donc l'épargne de gestion. À nouveau, une évolution avec un pic en 2011, comme je vous l'expliquer. En 2012, on reste légèrement supérieur à 2010, 2009, 2008, 2007. Et à nouveau, des marges d'épargne de 4 millions d'euros, nous n'avons pas à rougir de notre gestion. Enfin, on vous présente l'excédent global de clôture. Donc, en 2008, nous avions 7 356 000 euros d'excédent cumulé. Et puis, à fin 2012, nous avons à nouveau 7 789 000 euros d'excédent cumulé. Donc, on revient vraiment exactement au niveau de 2008. Je l'ai déjà dit, le but d'une ville, ça n'est pas d'avoir des excédents cumulés. C'est d'être bien géré, d'investir correctement l'argent qu'elle a en recettes, de faire attention à ses coûts pour investir ça le plus possible en termes d'investissement. Ça n'est pas forcément d'être à ces niveaux-là d'excédent global, enfin d'économie sur les budgets passés chaque année. Mais à nouveau, c'est tout à fait une bonne surprise. Donc nos ratios dont je vous parlais tout à l'heure, à chaque fois que quelqu'un me demande si on sait telle ou telle ville, si elle est bien gérée ou pas, je dis vous regardez deux choses. Vous regardez l'évolution du taux d'imposition. Est-ce que le taux d'impôt est en grosse progression? S'il n'est pas, c'est une première bonne chose. Et puis après ça, vous regardez le niveau d'endettement de la ville, parce que ça n'est pas non plus une solution de ne pas augmenter les impôts, donc de ne pas avoir de recettes de la part de la population, mais en revanche de recourir à l'emprunt massivement pour faire des dépenses. Donc ce sont les deux choses que pour moi chacun peut regarder sur impôts.gouv. Donc vous regardez l'évolution de notre taux d'imposition, je vous le dis, il a été stable depuis 2008, et puis on regarde l'encours de la dette. Alors ici, là on a l'encours de la dette par habitant. En 2013, il est prévu, si jamais on n'empruntait pas en 2013, donc début 2013, il est prévu à 683 euros. Et vous voyez ici que la moyenne des villes de la même strate, alors là ici on a pour l'instant que le BP 2012 sur impôts.gouv, donc on compare un peu des choses réelles avec des choses moins réelles, mais il était quand même de 1139 euros. Donc vous voyez que l'encours de la dette par habitant est faible par rapport à la moyenne. Voilà. Après, il y a différents ratios dont on peut discuter si vous le souhaitez.
Très bien. Donc, oui, donc en conclusion, nous résumons là les différents points que vient de détailler Karine Renaud. Donc maintenant, nous allons passer, ce sera après ça. Donc maintenant, les questions. Monsieur Arazi.
Merci, monsieur le maire. Concernant ce budget 2013, je sais parfaitement quelle attention vous accordez à cette présentation. Alors, au lieu de laisser les chiffres parler d'eux-mêmes, vous avez choisi de les faire parler en votre faveur. Malgré cet habillage, nous voyons bien que ce budget est à vocation électoraliste. Trop peu d'économies sont opérées. Ce budget 2013 ne prend pas en compte l'urgence du moment, faire des économies et surtout dépenser mieux, en tournant le dos à toutes les formes de clientélisme. Je commencerai par les dépenses de communication. Avec une augmentation en valeur nette de 445 256 euros depuis 2008, soit, estimé le peu, plus de 60% d'augmentation entre 2008 et 2013. L'inflation du budget communication est injustifiable. C'est proprement incompréhensible. Quels arguments avancez-vous aux Nogentais pour expliquer que tout dans la ville est affaire de communication ? Ensuite, l'étude pour rationaliser les dépenses et l'absence de directeur général de service. Vous annoncez un important travail de rationalisation des dépenses pour les 3 ans qui viennent. Très bien. Mais cette heureuse initiative est hélas bien tardive. Comme si c'était l'échéance électorale qui vous faisait vous souvenir de la conjoncture, ou comme si, pressentant que nombre de Nogentais ne comprennent pas votre politique dispendieuse, vous drapiez au dernier moment des habits de la rigueur. Par ailleurs, j'estime, et je vous l'ai déjà dit, que l'absence actuelle de directeur général des services est hautement préoccupante, surtout dans ce nouveau contexte de rationalisation des dépenses. Car cela signifie que, dans les faits, c'est vous qui endossez la fonction. À croire que le rôle de maire ne vous suffit pas, cette situation fait plus qu'entamer la démocratie, elle va contre elle, et je tiens à vous le redire, je ne l'accepte absolument pas. Concernant les taxes d'urbanisme, le plafond légal de densité plane sur les finances de Nogent, je l'ai dit et répété à plusieurs fois ici. Le projet Nogent-Baltard, à lui seul, représente près de 5 millions de recettes d'urbanisme rien que pour l'année 2013. Autrement dit, vous comptez encore et toujours sur la densification de la ville pour abonder sa trésorerie, sans même prévoir au passage de financer les services qui accompagnent logiquement le développement d'une ville. J'en viens au budget du personnel. Je vous avais demandé de me communiquer les éléments permettant d'apprécier dans le temps la qualité des contrats liant le personnel à la ville. Je ne les ai pas reçus, ils n'étaient pas présents sur table. C'est bien dommage, car de mon côté, j'en ai récolté quelques-uns, qui laissent à croire que les employés, principalement ceux des catégories C, doivent faire face à une grande précarité. Pouvez-vous enfin me dire ce qu'il en est ? Je vous avais d'ailleurs également écrit pour obtenir des éclaircissements quant au contrat de mission, que je n'ai pas non plus réceptionné. Je vous repose donc la question. Je vais prendre aussi quelques exemples. Est-il concevable de prétendre avoir le souci même tardif de la rigueur budgétaire et de lire que la piscine est un véritable aspirateur d'argent ? Vous avez noté tout à l'heure les 600 000 euros de dépenses plus les 60 000 euros d'augmentation de la DSP d'une année sur l'autre, ce qui représente 8% d'augmentation après d'ailleurs de nombreuses augmentations préalables. de même, pouvez-vous motiver les travaux en rafale sur la rue Émile Zola, parce qu'on a déjà budgété un certain nombre de travaux, il semble là qu'il y ait empilement. Pourtant, il existe effectivement un souci d'économie dans ce budget. Il concerne par exemple le CCAS, qui n'est, malgré les difficultés économiques, pas mieux doté cette année que par le passé. Autrement dit, il est plus mal doté. Dans le défaut de prise en compte des investissements, je me féliciterais bien de l'ouverture de 60 places de crèche, je les ai réclamées. Hein. S'il n'y avait encore derrière cet investissement... Écoutez, c'était bien, vous m'écoutiez pour une fois sans trop faire de commentaires. S'il n'y avait encore derrière cet investissement, votre préoccupation première, que les Nogentais les reçoivent comme un cadeau. En effet, il aura fallu que les parents de notre ville patientent jusqu'à la veille des municipales. Quant aux autres investissements, je maintiens la position que je vous avais exposée lors du débat d'orientation budgétaire. La plupart de ceux-ci, écoles, gymnases, ne sont pas pris en charge au budget 2013. Or, il est évidemment nécessaire que nous ayons une visibilité à 5 ans de leur financement. Concernant l'endettement, il est bien plus toxique qu'il n'y paraît. La dette de la ville est importante, là il faudra peut-être qu'on se mette d'accord sur les chiffres, mais aussi importante est la toxicité de sa structure. Avez-vous dit aux Nogentais, comme vous me l'avez dit en commission des finances lundi, que nous voudrions rembourser la partie toxique de notre dette, que nous ne le pourrions même pas? Tout cela parce que le montant des pénalités que nous aurions à rembourser, soit 2 millions d'euros, égale le montant de cette dette qui s'établit pareillement à 2 millions d'euros. Maintiendrez-vous encore aux Nogentais qu'une partie des 4 millions d'emprunts de la ville n'est pas toxique? Concernant les impôts, la stabilisation de ceux-ci ne résume pas votre politique fiscale, loin de là. Comparé au PERE, qui a un taux de 10,96%, oui, vous pourriez faire... Ah oui, je pense que le PERE est un bon exemple. Et M. Carrez appréciera le taux d'imposition de la taxe d'habitation... Le taux d'imposition de la taxe d'habitation des Nogentais reste nettement plus élevé, on l'a rappelé, 15,46, soit plus de 5 points. Par ailleurs, cette stabilisation, plus de 5 points. Je vais finir, puis je pense que vous me répondrez sur l'ensemble. Par ailleurs, cette stabilisation du taux d'imposition des Nogentais advient après une augmentation de 50% lors de votre précédent mandat. Dans ces conditions, car il faut tout dire aux Nogentais, où est la prouesse? Alors oui, je prends acte du fait que nous avons tout de même pu baisser une fois, vous l'avez dit, ce taux d'imposition de 10%, reste que l'augmentation initiale s'établit encore à 40%. Il est grand temps que sur la fiscalité aussi, vous expliquiez vos choix aux Nogentais, car à quoi ont servi leurs impôts? À financer de la dépense publique. Je vous propose ainsi... Sur les 10 dernières années, un tableau avec d'un côté la somme des impôts supplémentaires établis, perçus par la ville, et de l'autre, le montant que vous avez effectivement réservé au contentieux. Et je suis ravi d'ailleurs que vous nous présentiez ces éléments. Souvenons-nous, en 2008, nous avons, vous et moi, noué une alliance politique. J'ai appelé les Nogentais. J'ai appelé les Nogentais à voter pour vous. Or, si nous tombons d'accord sur quelques points, nous avons aussi de vrais désaccords. Et ce budget en est un. Et donc c'est en mon âme et conscience, mais aussi au nom des Nogentais que je représente dans cette Assemblée, que je ne vous apporterai pas mon soutien pour voter le budget 2013 et que je m'abstiendrai.
Bien. Bon, écoutez, je pense que le florilège auquel nous venons d'assister va me conduire à noter tout ce que vous venez de dire pour mieux comprendre l'objectif que vous poursuivez en annonçant que nous avons des emprunts toxiques, que nous aurions dit qu'on allait les rembourser. Pour... Pas du tout, il n'a jamais été question de faire cela. Nous voulons réorganiser notre dette dans le courant de l'année 2013 avec effet sur 2014 parce que périodiquement, il est bon de revisiter sa dette. Concernant le CCAS, il se porte bien, je vous remercie. Il travaille sérieusement, il a des actions particulièrement importantes et j'ai dit tout à l'heure qu'il augmentait son activité dans le domaine de l'aide sociale, mais ça, c'est une autre affaire. Vous voyez, l'organisation, elle porte ses fruits puisque même Val-Office nous remercie de la structure que nous avons mise en place auprès des personnes les plus défavorisées qui habitent les logements HLM de nos gens. En ce qui concerne la rigueur budgétaire, je ne répondrai pas. Le personnel, je ne répondrai pas. Le directeur des services, ce n'est pas votre problème, monsieur Arazi. A priori, le maire, il a la qualité et la compétence de savoir par qui, de qui il doit s'entourer au plan administratif. Et je ne sais pas si vous vous avez remarqué, mais le budget qui vous est présenté dans de bonnes conditions, parce qu'une ville ne tourne pas parce qu'il y a un directeur général des services, parce qu'il y a un maire, parce qu'il y a des adjoints, mais parce qu'il y a une équipe administrative et puis une équipe municipale qui travaillent ensemble. Il se trouve que pour qu'elles travaillent ensemble, il faut que tout le monde soit tendu vers le même objectif. Le même objectif en 2013, nous allons d'ailleurs choisir, nous avons choisi le partenaire que nous voulons avoir à nos côtés pour l'optimisation et la modernisation des services. Cela est quasiment fait. Nous allons commencer à travailler avec ce cabinet de conseil. Près de 180 agents seront interrogés et mon intention est de créer un comité de suivi dans lequel je demanderai à l'opposition de désigner deux personnes pour qu'elles puissent partager les travaux avec ce cabinet et les services municipaux et les élus de cette ville. L'objectif, c'est de poursuivre, contrairement à ce que vous venez de dire, c'est de poursuivre le travail qui est effectué, parce que quand Karine Renouille annonce, je dirais, des reprises anticipées importantes, c'est bien parce qu'il y a quand même, malgré tout, à la fois, en matière de recettes, un travail qui est particulièrement fait de façon professionnelle, mais aussi parce que nous faisons en sorte de faire excessivement attention aux dépenses. On voit que vous n'avez pas bien suivi le processus depuis 3-4 ans, mais c'est vrai que tous les budgets, monsieur Arazi, tous les budgets sont électoralistes, pas forcément celui de 2013. Le jour où vous êtes élu, vous avez un budget électoraliste, parce que votre objectif, c'est de satisfaire vos concitoyens dans les meilleures conditions, en étant le plus équitable possible et en faisant en sorte que la ville n'oublie personne. Vous voyez, ça, c'est le thème depuis le début 2008. C'est bien comme cela que nous avons considéré que nous devions travailler. Alors, vous avez voulu faire une sortie sur le budget communication. Dans un premier temps, on vous a donné des informations à caractère général. Là, nous allons vous donner, avec l'ensemble des élus présents ce soir, le détail, ligne par ligne, des dépenses de la communication et de l'événementiel depuis 2008. Comme ça, vous pourrez suivre, ligne par ligne, les évolutions, que ce soit les cérémonies, la conception graphique, les publications, l'événementiel, l'Internet, l'événement, le développement durable, etc., etc. Vous verrez, tout est là. Et puis, vous nous ferez, bien sûr, peut-être des remarques complémentaires au cas où ce ne serait pas assez précis. Donc voilà, nous notons vos remarques. Faire des économies, c'est notre objectif. Et puis, derrière tout cela, l'objectif, c'est aussi de regarder l'avenir. Et l'avenir, vous savez, il n'est pas aussi florissant que ça. Parce que, au sein de l'Association des maires de France, nous avons contesté les objectifs qui nous avaient été annoncés par l'ancien ministre du budget, mais ce n'est pas parce que c'était lui, c'est parce que c'était la politique du gouvernement. Nous allons être obligés de faire face à deux baisses successives des dotations. Premier temps, nous nous en plaignons. Deuxième temps, nous nous disons que peut-être que, compte tenu du contexte national, il faut peut-être que chacun fasse des efforts. Eh bien, ce sera pour nous plus stimulant que de voir encore une fois les dotations baisser. Le tout, c'est qu'on n'arrive pas au fond de la piscine et que l'on puisse encore proposer aux Nogentais des services publics de qualité adaptés à la situation de chacune des familles, de chacun des foyers fiscaux, pour faire en sorte que nous ne laissions pas, sur le trottoir, un certain nombre de personnes qui n'auraient pas demandé d'aide, ce qui est parfois le cas pour certaines personnes. Donc voilà où nous en sommes. Nous allons passer à la suite. Alors, vous avez distribué les documents. J'aimerais que vous les distribuiez assez vite. Vous mettez à deux et puis vous passez l'un derrière l'autre. Comme ça, ça prend moins de temps. Voilà. Donc, d'autres questions et d'autres interventions. Monsieur Gem.
Bon, moi, je ne reviendrai pas effectivement sur le côté électoraliste de ce budget parce que vous avez entièrement raison. Chaque maire, chaque équipe municipale avant les élections a tendance à faire un budget électoraliste, et celui-là n'y échappe pas, avec un ensemble d'investissements dans lequel on essaye de montrer que ce qu'on n'a pas fait en 5 ans, on va le faire au moins avant les élections. Non, moi, ce budget, pour moi, c'est un budget antisocial. J'aurais quatre chiffres à mettre en avant, qui sont les vôtres, d'ailleurs, et qui sont ce fameux billet de 100 que vous n'avez pas présenté, là, je ne l'ai pas vu, dans lequel on voit que les investissements pour le social, c'est 0,29 centimes, et que le fonctionnement pour le social, c'est 2,29. Je citerai aussi deux autres chiffres en investissement, 52 000 euros pour le social et 336 000 euros pour la vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'effectivement, la vidéosurveillance, on voit être une priorité par rapport au social. Je citerai aussi le nombre d'agents qu'il y a dans le social, 10 personnes, moins 5, et le nombre de personnes qu'il y a dans la sécurité, 48. Donc, et je reviendrai effectivement sur le CCAS, où on a eu l'occasion d'en discuter tous les deux. Si effectivement vous avez supprimé le directeur général des services au niveau de la mairie, vous êtes permis aussi de supprimer la directrice du CCAS et de mettre dans la structure qui vous sont directement rattachés des responsables intérimaires. Comme je vous l'ai dit, tout ça, ça crée une certaine fragilité et ça ne facilite pas, on va dire, l'aide sociale et l'accompagnement. En plus, sur un budget d'1 600 000 au niveau du CCAS, en aide directe, alors que vous êtes le premier à nous dire à travers les barèmes d'imposition qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales avec des problèmes, vous ne distribuez que 50 000 euros. Alors la question, je me suis dit, pourquoi a-t-il supprimé la directrice? Ben, peut-être parce que l'an dernier, on avait distribué 30 000 euros, cette année 50 000, elle a peut-être fait trop de dépenses. Donc on va essayer de revenir à un chiffre un peu plus cohérent. Non, enfin, on voit bien effectivement où sont nos priorités. Et on sait que très bien que le social n'est pas tellement votre tasse de thé, puisque vous êtes l'homme de l'arrêté anti-SDF, quand même, hein, faut pas l'oublier, ça. Donc, moi, si vous voulez, pour ces principales raisons-là, je ne voterai pas ce budget.
Bien, je ne répondrai pas à toutes les questions que vous posez, parce que ça devient un dialogue de sourds. Le CCAS, monsieur Jeb, c'est 2 millions d'euros. Pourquoi ? Nous avons 200 000 euros sur les foyers résidence et puis 1 800 000 euros sur le CCAS lui-même. Les inscriptions budgétaires sont plutôt en hausse puisque l'activité que remplit l'ancienne directrice du CCAS a nécessité que nous inscrivions des dépenses complémentaires pour qu'elle puisse faire le travail d'assistante sociale de quartier que nous souhaitions mettre en place, notamment dans le cadre des mouvements entre logements dans le cadre de la réhabilitation des HBM. Les effets commencent à produire un bénéfice assez important au niveau des personnes et je vous donne rendez-vous à la fin de cette année dans le cadre du CCAS pour que vous puissiez voir le bilan du travail effectué. Le salaire de la personne en question est toujours au CCAS, puisqu'elle appartient au CCAS. et elle est en mission spéciale sur ce secteur. En ce qui concerne le social globalement, bon, c'est votre avis, je ne le contesterai pas. Vous savez, c'est le regard qui compte plus que la réalité. Donc, je prends note de vos commentaires. À partir de là, pour le reste, je pense qu'aujourd'hui, dans le secteur social, dans le secteur du suivi des personnes âgées, des seniors, dans l'accueil, nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, particulièrement impliqués, les personnes aussi. Et je vous rappelle qu'au CCAS, il y a 29 personnes, il n'y en a pas une dizaine, comme vous venez de le dire. Voilà ce que je peux répondre. À partir de là, si je devais réagir à votre intervention, je dirais qu'elle est dans la logique de votre engagement personnel au plan politique, et c'est beaucoup plus simple pour moi d'entendre ce que vous dites que ce que je viens d'entendre de la part de M. Arazi, parce que je me demande où il est. Vous, je sais où vous êtes et sur quoi vous avez mis vos priorités. Vous ne m'avez pas parlé du nombre de logements SRU, mais je sais que...
J'en ai pas parlé, puisque tu n'as pas bougé, donc effectivement, c'est dans la continuité.
Voilà.
J'aurais pu vous parler des logements d'urgence, d'ailleurs.
C'est vrai.
Il y a un certain nombre de logements d'urgence, j'ai pu comprendre, inoccupés, et certains d'autres occupés, peut-être pas par les bonnes personnes. J'ai pu comprendre aussi.
Ah ben ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que ce sont les bonnes personnes ou pas? C'est une affaire d'appréciation. Ce qui est sûr, c'est que dans le budget de cette année, vous avez peut-être vu que nous achetons deux logements dans le secteur de la rue Thiers-Guy Mocquet qui vont être convertis en logements d'urgence. Le nombre de logements d'urgence est d'environ 13 à Nogent, et je reconnais, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas assez de logements d'urgence. Et quand les personnes entrent dans ces logements d'urgence, elles sont bloquées beaucoup trop longtemps dans ce type de logement parce que nous n'avions pas mis en place un accompagnement social de qualité et performant. C'est pour cela que actuellement nous discutons avec une association qui s'appelle la SNL, avec laquelle nous sommes en train d'élaborer un projet, une convention, pour que les logements d'urgence de la ville soient pris en charge par des bénévoles de la SNL pour qu'ils puissent les préparer à passer dans le logement social dans une continuité de logement pour accompagner le parcours résidentiel. Donc là, c'est vrai, c'est un sujet qui nécessite encore beaucoup d'efforts et d'investissements. D'autres questions, s'il vous plaît, Monsieur Jeb. Monsieur Gilles, excusez-moi.
Ça va devenir habituel.
Non, ça m'arrive.
Avant de m'exprimer sur le budget, moi j'ai des petites questions de compréhension. Parce que sur le chapitre 10, là, vous inscrivez entre le PLD et la taxe locale d'équipement pour l'opération Nogent-Baltard, 5,6 millions de recettes. Or, dans la déclaration de projet, il était dit clairement que c'était payable par moitié, une première tranche au bout de 18 mois après les permis. Donc, normalement, on devrait toucher la moitié. Vous nous avez dit que vous avez reçu 2 millions, donc sur 5,6 millions, vous auriez dû toucher 2,8 millions. Et l'autre moitié, normalement, est payable au bout de 36 mois, c'est-à-dire 18 mois par rapport à aujourd'hui. Et donc, normalement, pas dans l'exercice 2013. Donc, qu'est-ce qui vous autorise à inscrire la totalité des 5,6 millions dans le budget 2013? Est-ce que vous avez un engagement écrit d'Eiffage d'anticiper le versement de ces deux recettes au cours de l'exercice 2013?
Bon, tout d'abord, le reversement du PLD, nous n'en sommes pas maîtres. Le PLD est versé par l'État et au moment où il a fait appel au PLD auprès du pétitionnaire. Ça, c'est le premier point. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous n'avons reçu que 2 millions au lieu de 2,8 millions. Mais là, l'État est en cause. Enfin, est en cause au niveau de la procédure et de l'arrivée de ces sommes dans notre budget. Par contre, le dispositif légal a changé, hein, je crois. C'est bien ça.
Oui.
Et aujourd'hui, bien que l'objectif soit le même, il se trouve que... Non, mais... Non. Oui, elle a raison. Les 2 millions d'euros, c'est environ, en réalité, parce qu'on n'a pas la somme exacte qui nous est virée. Nous attendons des informations de la part du département des services fiscaux. Maintenant, concernant le reste, il est certain que la logique, c'est que les délais soient respectés, mais en ce qui concerne le versement. Ensuite, le retour vers la collectivité est fonction de l'État. Et en ce moment, je peux vous dire qu'il y a certaines recettes qui prennent un certain temps à revenir dans les caisses des collectivités, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les difficultés sont particulièrement importantes au niveau de l'État. Mais globalement, nous sommes sur le même objectif.
Non, parce que ce que vous me dites après que l'État garde un peu l'argent pour se faire de la trésorerie, ça je comprends la situation. Le problème de fond, c'est normalement la règle, c'est 18 mois et 36 mois. Et donc 18 mois, bah, vous avez le premier versement, mais 18 mois plus 18, ça ne fait pas l'année 2013, ça fait l'année 2014. Donc qu'est-ce qui nous garantit que les 2 millions 8, la deuxième tranche de 2 millions 8 arrivera bien en 2013? Est-ce qu'il y a un accord d'anticipation par rapport à l'échéancier réglementaire?
Non, il n'y a pas d'anticipation. Nous serons sur le profil que vous avez précisé à l'instant.
Donc 2013, il y aura 18 mois en 2013?
Non, 20, c'est 24. Non, on est à 24 maintenant.
Non, mais une année, ça fait 12 mois,
non,
monsieur
le maire. Non, non, bien sûr, je l'ai noté. Hein.
La loi a changé.
Allons-y.
Avant, c'était 18 et 36 mois, et aujourd'hui, c'est 12 et 24 mois.
Même si on fait 12 et 24, si vous avez touché la première tranche en 2013, la deuxième, vous l'aurez en 2014. Le problème de fond, il est là. C'est, oui. Si vous me dites c'est 6 mois et 6 mois, là, d'accord. Mais si vous me dites c'est 12 mois et 24 mois, c'est pas possible.
Bien sûr. Monsieur Gilles, vous avez particulièrement bien suivi ce projet. Le premier versement, logiquement, on aurait dû le toucher en 2012, hein, dans le cadre du processus qui a été mis en place. C'était plutôt 2012. Or, il se trouve que en 2013, nous avons les sommes que nous aurions dû toucher en 2012 et celles qui sont comptabilisées en 2013. C'est pour cela que vous avez une somme aussi importante. Et on a touché pour l'instant que 2 millions, environ 2 millions, à 800 000 euros près, puisque aujourd'hui nous n'avons pas la notification officielle.
Bon, monsieur le maire, moi je vous demande quand même de nous communiquer un écrit qui fasse état de ce deuxième versement pour qu'on soit sûr qu'on n'est pas en train de voter un budget insincère. Parce que sinon, moi je suis désolé, on ne peut pas laisser passer un budget avec un trou de 2,8 millions, ce n'est pas possible.
Mais qui vous a annoncé un trou de 2,8 millions?
Bah, si,
ce
si
sont
la recette
des sommes qui ont été versées par le pétitionnaire à l'État, et l'État... Dès l'instant où ces sommes ont été versées à l'État, elles nous sont dues. Et or, le transfert de ces sommes-là au niveau de la collectivité est fonction de la décision de l'État quant à la date. Et ça n'est pas que pour cela. Vous savez, je peux vous parler des autres dotations qui sont inscrites aujourd'hui et qui aujourd'hui sont mettent du temps. Et de toute façon, les dotations, c'est autre chose puisqu'elles sont... Elles sont réparties mois par mois sur l'année. On ne reçoit pas la totalité de la somme au début de l'année. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucun souci pour inscrire la somme que nous avons inscrite.
Ben, moi, je vous demanderais quand même, à ce moment-là, d'avoir un écrit du comptable certifiant que cette somme peut être inscrite au budget. Parce que, voilà, en l'état, je pense qu'effectivement, on n'a aucune garantie que ces sommes arriveront.
Cher monsieur, nous avons les éléments et qui nous garantissent cela de la part du comptable.
Eh bien, je vous demanderai de nous les communiquer pour qu'on soit certain qu'on n'a pas voté un budget insincère.
Soutenons la demande, monsieur le maire, parce que c'est vrai que ce n'est pas clair
votre explication. Nous soutenons aussi la demande et nous demandons que ces éléments soient communiqués.
Non, mais attendez, je vous ai donné la parole à vous. Non, mais est-ce que je vous ai donné la parole? Pour l'instant, c'est Monsieur Gilles qui parle. Et vous sautez tout de suite sur l'occasion, parce que c'est la seule petite chose à laquelle vous n'aviez pas pensé. Donc vite, vite, je monte dans le train. Je monte dans le train pour essayer de montrer que je suis aussi dedans et qu'il faut que je réclame la même chose. Moi, je vous conseille, Monsieur Gilles, à chaque fois qu'il a quelque chose à demander, de vous le passer avant pour que ça ne soit pas aussi évident que ça, quand même. C'est surprenant. Monsieur Gilles.
Et donc, je vous demande...
Nous allons vous donner les éléments qui nous ont conduit à avoir la certitude que nous pouvions inscrire cette somme-là en recette. Ce que je peux vous dire, c'est que la société en question a véritablement versé ces sommes. J'en ai la preuve. Et pas que celle-là, d'ailleurs, il y en a d'autres.
Alors, après, je dirais, la position un peu globale sur ce qui a été présenté au niveau du budget. En orientation budgétaire, moi, je vous avais demandé qu'on ait un tableau prévisionnel des engagements pluriannuels que vous prenez. Parce que vous annoncez tout un tas d'équipements, hein, donc vous nous avez reparlé des gymnases et autres. Il y a aussi un certain nombre de dépenses dont on sait qu'elles doivent arriver, par exemple la remise en état du pavillon Baltard, il y a l'école Victor Hugo qui est annoncée uniquement aux frais d'études et autres. Donc il est important quand même qu'on sache quelle est la boule de neige qu'on pousse devant nous. Et là, j'ai l'impression que la boule de neige, d'un seul coup, a été multipliée par 3 ou 4. Et moi, j'aimerais savoir, effectivement, quel est le montant des engagements que vous prenez en termes de crédit de paiement pour 2014, 2015, voire 2016, mais je pense que quand même, c'est surtout 2014-2015. Et par rapport aux différents chiffres qui nous ont été présentés, on n'a pas la capacité d'autofinancement de ces opérations. Donc ça veut dire forcément qu'il faudra prévoir soit une nouvelle augmentation de la dette, contrairement au beau graphique que vous nous avez présenté, soit à nouveau d'augmenter la fiscalité. Et je pense que ces éléments-là, aujourd'hui, on ne les a pas. Et du coup, vous nous faites voter sur les chapitres de travaux des amorces d'opérations, alors qu'on n'a pas la visibilité d'ensemble sur l'ensemble des engagements pluriannuels que prend la commune. Et là, je pense que nous faites voter à l'aveugle. C'est d'autant plus, je dirais, regrettable que sur ces questions, notamment sur les questions du scolaire, ça fait quand même plusieurs années qu'on sait qu'il y a des problèmes. Alors, vous nous avez parlé d'abord des travaux sur Val-de-Beauté, ça a été abandonné. Après, il y a eu pendant 2 ans Gallieni, ça a été abandonné. Et là, on se retrouve en catastrophe, on est obligé de faire des travaux sur Victor Hugo en déplaçant tout le monde, tous les enfants, y compris les enfants du bois, sur Marie Curie. Et quand on fait le décompte des classes, alors que, soi-disant, il n'y a pas de problème, d'un seul coup, vous allez créer 12 ou 15 classes supplémentaires sur nos gens. Donc ça veut bien dire qu'il y avait un problème d'anticipation des besoins, mais il y a aussi un problème d'anticipation au niveau de la gestion financière. Donc là, moi, je pense qu'en termes de gestion financière, on voit effectivement l'aboutissement d'un processus où pendant des années, en fait, on a poussé la poussière sous le tapis, et là, aujourd'hui, on se trouve au pied du mur.
La poussière sous le tapis, c'est quand même 9 600 000 euros par an, hein, depuis 2008. Karine.
Oui, moi je voulais juste dire qu'après avoir additionné des choux et des carottes pendant pas mal d'années, nous avoir accusé d'avoir un mur devant nous chaque année...
Pardon ? Je n'avais pas terminé, je parlais de l'investissement.
Oui. Juste sur le coup de la boule de neige, moi c'est vrai qu'on vous entend depuis 2008 dire qu'on va droit dans le mur, que c'est évident que l'année d'après, on va être obligé d'augmenter le taux d'impôt ou de s'endetter d'une façon démesurée. Depuis 2008, on investit tous les ans 9 millions d'euros. Là, le budget qu'on présente, ce n'est pas un budget exceptionnel. Tous les ans, depuis 2008, on investit 9 millions d'euros et tous les ans, on arrive à équilibrer notre budget et tous les ans, et là, à nouveau, on augmente notre excédent cumulé. Je pense qu'on ne va pas droit dans le mur. Je pense qu'on n'a pas un effet boule de neige devant nous. On n'a pas un mur. Je pense que cette ville est gérée et qu'elle est bien gérée.
Eh ben, moi, j'aimerais bien avoir le tableau prévisionnel des engagements. Et je suis désolé.
Non, mais monsieur Gilles, arrêtez. Mais j'attends de vous, quand même, la qualité que vous avez dans le domaine professionnel.
Ah ben, dans le domaine professionnel, si je vois des comptes comme ça, je refuse de les certifier.
Vous m'excusez. Oui. Il faut dire que, en ce qui concerne l'État, c'est pas aussi évident que ça. Hein, parce que les prévisions, on sait ce que ça donne dans un certain nombre de secteurs de l'État. Là, nous, vous voyez la différence avec l'État, c'est que nous sommes obligés de présenter en permanence des budgets équilibrés, ce que ne fait jamais l'État. mais par contre, il nous donne des conseils sur la façon dont on doit travailler pour équilibrer nos budgets. Ce que je dois dire, c'est que quand on a présenté devant le conseil municipal le projet de l'école Victor Hugo, quand on a présenté devant le conseil municipal le projet des deux gymnases du secteur de la gare SNCF, quand on a présenté la réhabilitation de l'école qui est située rue de Smith-Champion, eh bien, à chaque fois, nous avons donné une indication sur le montant estimé de l'investissement et le montant estimé des aides que nous pouvions obtenir. Alors, il se trouve que quand on additionne tout cela, ça représente entre 6,5 millions et 7 millions d'euros. Si demain, nous sommes incapables d'investir entre 6,5 millions et 7 millions d'euros, c'est que vraiment, il y aura eu une catastrophe importante dans le processus dont vient de parler Karine Renouille, qui date depuis 2008. La méthode utilisée en matière pluriannuelle, ce n'est pas l'improvisation, monsieur. Vous nous parlez de l'école Gallieni. Oui, l'étude a été lancée. Nous savons ce que nous pouvons faire sur l'école Gallieni et nous avons des idées sur le montant de l'investissement. En ce qui concerne Val de Beauté, maternelle, pourquoi nous avons arrêté le processus ? Simplement parce qu'un événement s'est produit, c'est celui de nos discussions et relations avec la région Île-de-France. La région Île-de-France a minimisé l'investissement en matière de restauration scolaire sur Branly, collège, lycée. Aujourd'hui, ils nous ont présenté un permis de construire pour augmenter la capacité d'accueil, peut-être effective, dans le premier semestre 2014. Entre-temps, il y a deux solutions d'ailleurs, c'est soit continuer pour partie l'accueil par la ville des lycéens pour la restauration scolaire, soit d'installer dans la cour du lycée-collège des installations provisoires, des barnums, pour accueillir pendant les travaux d'extension de la restauration les élèves, les collégiens en tous les cas prioritairement, et les lycéens. De quoi nous parlons avec la région ? Simplement d'une chose simple sur laquelle je travaille depuis des années et que je n'arrive pas à me faire entendre. La parcelle qui regroupe Branly, l'école Val-de-Beauté, le lycée professionnel Val-de-Beauté, l'école élémentaire Val-de-Beauté, est une parcelle municipale. Elle appartient à la ville sur laquelle il y a des équipements qui ont été construits par le département de la Seine et puis par la ville. Aujourd'hui, je demande simplement la chose suivante, c'est que l'extension de Branly se fasse sur le terrain de l'école maternelle Val-de-Beauté et qu'on nous restitue l'école des filles, qui est le lycée professionnel qui est de l'autre côté, pour que l'on puisse avoir un ensemble homogène entre l'école élémentaire, qui est l'école de garçons ancienne, et l'école de filles, qui accueille le lycée professionnel. Nous n'avons pas réalisé cette opération parce que nous considérons qu'il serait d'abord moins cher et plus logique et rationnel de regrouper maternelle et élémentaire sur un ensemble qui existait et que nous souhaiterions reconstituer. Le lycée professionnel, dans ce lycée, il n'y a qu'environ 6 à 10% suivant les sections d'élèves de la région. Je ne dis pas Nogenté. Je dis des villes voisines de nos gens. Donc ce travail-là est en cours. Nous avons donc décidé de ne pas investir dans la modernisation de l'école maternelle Val-de-Beauté. Pour le reste, tout se passe tout à fait normalement, mais il se trouve que l'école Victor Hugo, comme nous sommes aussi impliqués, il faut assister au comité environnement prochain sur la transition énergétique. On se dit que pour l'école qui est la plus gaspilleuse en matière d'énergie, alors qu'il y a un problème, de contamination d'air encore acceptable, mais on est au maximum des critères, enfin des ratios qui nous sont communiqués, il était peut-être plutôt urgent de basculer ce qui était prévu sur Gallieni, sur l'école Victor Hugo, pour qu'à la fois on règle le problème de ce fameux formaldéhyde qui est issu des structures bois, c'est du bois collé, hein, c'est du, ce qu'on appelle du lamellé collé. Donc il faut que nous intervenions de toute façon. Et deuxièmement, en intervenant, nous pourrons à la fois régler le problème d'énergie, puisque c'est une école qui nous coûte très cher en énergie, et en même temps, bien sûr, on en profitera, vous m'excusez, c'est logique que ce soit réfléchi dans ce sens-là, on en profitera pour ajouter des classes. Voilà la programmation pluriannuelle. Eh bien, cette programmation-là, elle existe, c'est vrai, ben, ça veut dire que dans un an, même un peu plus d'un an, à peu près, combien pour l'école Victor Hugo ? Deux ans, hein, c'est cela. Donc, répartis sur l'année 2014 et 2015, vous aurez l'école Victor Hugo et puis les deux gymnases qui sont prévus sur le secteur de la gare SNCF. Voilà les grandes erreurs que nous commettons. Je pense que, disons, logiquement, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus.
Non, alors quand vous nous dites 6,5 millions au total, alors là, si vous arrivez à négocier les deux gymnases, l'école Victor Hugo, la réfection du pavillon Baltard, l'opération marché...
Je ne vous ai pas parlé du pavillon Baltard, monsieur.
Si vous faites tout ça pour 6,5 millions...
Non, monsieur, je ne vous ai pas parlé du pavillon Baltard, monsieur. Et actuellement, le pavillon Baltard, nous avons des engagements de la DRAC qui nous aideraient dans le cas où nous interviendrions sur le pavillon Baltard, mais il n'est pas programmé pour les deux ans qui viennent. Il n'est pas programmé.
Il y a une autre opération aussi qui va être imposée en 2014, puisque la loi prévoit la mise en accessibilité en 2015, c'est la mise en accessibilité de la piscine. Vous avez dit que ça coûte 2 millions. Donc si on additionne tout ça, moi je pense qu'avec vos 6 millions, vous ne ferez pas grand-chose. C'est plutôt de l'ordre de 26 millions qu'il faut prévoir dans les budgets 2014.
Non mais... C'est bien de sortir des chiffres pour se faire peur.
Rappelez-vous combien a coûté l'école Léonard de Vinci.
Monsieur Gilles, 2015, personne ne sera au rendez-vous de 2015 et le gouvernement est obligé aujourd'hui d'en tirer les conséquences et les conclusions. L'objectif de 2015 était beaucoup trop optimiste pour imposer à toutes les collectivités la mise en conformité de tous les bâtiments publics de ce pays. C'est quasiment impossible. L'État ne peut pas. D'ailleurs, dans les circonstances actuelles, je ne vois pas comment il pourrait à la fois réduire les dotations et en même temps exiger la date de 2015. Vous savez, on n'a pas l'air comme ça, mais on suit un peu les dossiers et puis on a une petite idée quand même de la façon dont on doit étaler les dépenses et surtout les dépenses d'investissement. Je suis surpris par contre que nous ne parlions pas du contrat de mandature. Je suis surpris.
Ça va venir.
Ah, voilà, d'accord.
Parce que là, pour l'instant, je parlais que d'investissement. Donc, il faut quand même dire un mot sur le fonctionnement. Ce qu'on constate, c'est qu'une fois de plus, les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures aux recettes réelles de fonctionnement. Donc, quand vous nous parlez que l'État vous impose l'équilibre, là, ce qu'on constate, c'est que sur les opérations réelles, en fonctionnement, vous êtes déficitaire. Et si vous n'aviez pas le report de l'année précédente, vous n'êtes pas capable d'équilibrer votre budget. Donc, on comprend effectivement pourquoi vous nous faites voter le budget fin mars. C'est que sinon, vous n'êtes pas capable de le présenter en équilibre. Alors, pourquoi vous n'y êtes pas capable ? Je dirais que ce n'est pas un point, c'est un point majeur
particulièrement performant de règlement pour essayer de justifier le fait que vous allez refuser le budget. Allez-y directement, dites-nous directement que vous ne voulez pas voter ce budget parce que c'est un budget politique, électoraliste, et que vous ne pouvez pas voter un budget dans lequel vous n'avez pas participé.
Moi, ce n'est pas un problème d'électoralisme, c'est simplement un problème de mauvaise gestion.
Ah, voilà, ça se saurait.
Et oui, et notamment sur les dépenses de personnel. Donc, vous expliquez que c'est à cause de la protection sociale. Moi, je suis désolé, qu'est-ce qu'on voit? Vous augmentez de 20 le nombre de personnels non titulaires. Et en plus, on va voir après, en fin de conseil, que bah, ces personnes, un jour ou l'autre, on sera obligé de les titulariser. Donc, pourquoi est-ce qu'on a recours à ce type de personnel? Et en plus, pourquoi est-ce qu'on augmente l'effectif de non titulaires? Avec un résultat, c'est que les dépenses...
L'effectif global est stable, on est bien d'accord.
Sauf que les dépenses de personnel augmentent de 5,21.
Oui, oui. L'effectif global est-il stable ou pas?
Le contrat de mandature, vous étiez engagé à 3% maximum.
Michel Gilles, est-ce que ça fait 5 ans que vous nous dites qu'on va dans le mur? 5 ans que vous nous dites qu'on gère mal? 5 ans que vous nous dites qu'on ne pourrait pas voter ce budget si on ne faisait pas appel aux excédents? 5 ans, mais 5 ans qu'on est censé augmenter le taux d'impôt de l'année d'après d'une façon démesurée? 5 ans qu'on est censé faire un appel à l'endettement? Mais il y a un moment, non, il y a un moment, Michel Gilles reconnaissait que depuis 5 ans, on n'a pas augmenté le taux d'impôt, on a un endettement qui est raisonnable, on a investi 9 millions d'euros par an. Je ne sais pas, il y a un moment où vous pouvez peut-être juste reconnaître un peu ça.
Bah, là, vous dites que vous augmentez le personnel.
Non, on n'augmente pas le nombre de personnels. Le nombre de personnels est stable. Dites-le. Ne dites pas vous augmentez. C'est un peu facile de prendre qu'une partie. Michel Gilles, juste, c'est un peu facile de prendre qu'une seule partie, de dire ça augmente. Non, on regarde le tout, on regarde le total, et le total est stable. C'est ça qu'on voit. Bien sûr, les frais de personnel ont augmenté. On en a parlé, on a expliqué les raisons pour lesquelles ça augmentait, et on a expliqué ce qu'on allait faire au cours de l'année pour essayer de stabiliser ça. Enfin, il y a un moment... On a l'impression que chaque année vous vous répétez et à aucun moment vous reconnaissez, on a un excédent qui progresse par rapport à l'année dernière. Arrêtez de dire qu'on gère mal. Si on gérait mal, on aurait tout bouffé notre excédent et en plus on serait mal, on n'arriverait même pas à équilibrer le budget l'année prochaine sans augmenter le taux d'impôt.
L'excédent, je suis désolé, vous étiez engagé à 14 millions de dettes, on est à 10 millions au-dessus.
Donc, alors, on s'était engagé à une capacité de désendettement de 5,4 ans en 2011, on est à 5,4. Alors, on va en parler du contrat de mandature, parce que j'attendais quand même que vous me le disiez. Et pour une fois, cette fois-ci, ça y est, je l'ai sorti, le contrat de mandature. Il y avait 7 points, Michel Gilles, dans notre contrat de mandature. Le premier point, 0% de variation du taux d'imposition. Je pense qu'on peut tous dire autour de cette table qu'on est à 0% de variation du taux d'imposition. Il y avait un deuxième point qui était la limitation des dépenses de personnel à 3% par an. Nous venons de faire le calcul avec Manu Rouleau. Nous sommes exactement à 3% par an en optimisant les services municipaux. Je pense que l'ensemble des collègues qui sont autour de cette table, en tout cas la majorité, ont chacun participé avec leurs services à optimiser les services municipaux et je pense que les Nogentais le savent. Troisième point, progression des charges courantes de 2% par an. Nous avons fait une progression des charges courantes de 1% par an. Donc je pense qu'on optimise encore ce pourquoi nous nous étions engagés. Nous nous étions engagés à des dépenses de fonctionnement en 2011. À nouveau, il ne faut pas prendre qu'un seul petit point, il faut prendre les 7 points, Michel Gilles. Donc le quatrième point, dépenses de fonctionnement, 38 400 000 en 2011. Nous sommes à 38 800 000. D'accord, je l'avoue, on est à 400 000, on s'est planté 400 000. Mais bon, ceci dit, tout ça, c'était prévu en 2008. Un investissement annuel, nous nous sommes engagés à faire un investissement annuel de 5 millions par an. Ça, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e point. Nous n'avons pas fait des investissements annuels de 5 millions par an, nous avons fait des investissements annuels à hauteur de 9 millions d'euros par an. D'accord ? Donc ça, c'était le 5e point. Le 6e point, c'est vrai, poursuite de la baisse de la charge d'emprunt. Ça, c'est vrai, loupé, je ne l'ai pas vu, jamais je ne me serais... Enfin, voilà, loupé, je ne vois pas pourquoi on baisserait alors qu'on est à quasiment la moitié d'une ville normale en endettement. Je ne vois pas pourquoi on renoncerait à certains investissements. Je pense qu'on a eu raison d'investir et d'acheter des terrains de la rue Jean Monnet pour 2 millions d'euros. Je pense qu'on a eu raison de faire les investissements qu'on a et je pense qu'on a eu raison de stabiliser notre endettement et non pas de le baisser. Nous nous sommes engagés sur une capacité de désendettement de 5,4 ans en 2011. Nous sommes exactement à 5,4 ans. Dernier point, parce qu'il faut savoir tous les citer, c'était de nouvelles recettes de taxes professionnelles par le développement de l'activité économique. Il y a plusieurs personnes autour de cette table qui travaillent au développement de l'activité économique et je pense qu'au niveau de la communauté d'agglomération, ils y arrivent. Donc merci Michel Gilles de ne pas prendre qu'une partie d'un tout, de ne pas prendre que le seul chiffre sur lequel, c'est vrai, nous ne sommes pas à 14 millions d'endettement, mais moi je vais vous le dire, je m'en fiche de ne pas être à 14 millions d'endettement. Il n'y a aucune raison d'être à 14 millions d'endettement quand on est exactement, enfin pratiquement à la moitié d'un endettement normal d'une ville de notre taille. Donc oui, moi je souhaite que pour l'année prochaine nous continuions à faire les investissements que nous faisons. On a raison de les faire. Et à nouveau, j'aimerais bien qu'une seule fois, vous nous disiez finalement cette ville, elle n'est pas si mal gérée. Il y avait 7 points. Allez, sur 5 points 3 quarts, on a eu raison. Je pense que c'est quand même pas si mal.
Non, je complète.
J'entends ce discours électoraliste, si mais c'est complètement.
Je compléterai. Vous m'excusez. Bon, de toute façon, on n'y échappera pas. Alors, je compléterai au niveau du personnel que vous avez regardé l'équilibre entre, vous l'avez cité d'ailleurs, entre les contractuels et les titulaires. Les titulaires ont baissé, Monsieur Gilles. Ils ont baissé. Ce sont les contractuels qui ont augmenté. Et tout ça pour faire une addition quasiment en dessous de celle d'il y a 3 ans. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que, en plus, on a absorbé le conservatoire et on a créé de nouveaux services. Et en finale, le risque en matière d'évolution de l'effectif est placé sur les contractuels. Je connais quelqu'un qui parlait tout à l'heure, Monsieur Gève, entre autres, je ne veux pas poser les questions à sa place, mais je sais combien, lui, il n'est pas d'accord sur l'évolution de la répartition entre contractuels et effectifs titulaires. Mais il est certain que aujourd'hui, heureusement pour les thèses de notre collègue, l'État a décidé qu'au bout d'un certain nombre d'années, quand le contractuel restait sur 3, je crois, renouvellements de contrat, il fallait l'intégrer dans la structure. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'à l'époque que nous vivons, cela n'est que normal vis-à-vis du maintien dans l'emploi d'un certain nombre de personnes qui, souvent, lorsque nous sommes allés les chercher en tant que contractuels, c'était parce que peut-être on ne trouvait pas forcément dans les postes titulaires les compétences, surtout les compétences, les types de formation dont on pouvait avoir besoin. Mais voilà les seuls torts que nous avons, c'est-à-dire d'avoir augmenté les contractuels dans un équilibre en nombre de personnes quasiment équivalent à il y a 3 ans.
Bon, je terminerai simplement par un point, parce que quand même, il faut se remettre dans un contexte un peu général. Je pense qu'on garde tous les informations à ce qui se passe. Il y a quand même un sondage OpinionWay de mars de cette année, mars 2013, qui montre que la grande majorité des Français ont quand même conscience qu'il y a un vrai problème sur la gestion des dépenses publiques. Et 86% des Français disent qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires et réduire le train de vie des élus. Et moi, je pense que si on n'intègre pas ces données, un jour, on va se retrouver avec le goudron et les plumes. Hein. Et moi, par rapport à ça, bon, c'est bien sûr, je voterai contre sur le chapitre du personnel, parce que je trouve qu'on ne peut pas augmenter de 5,21, mais je demande aussi un vote séparé sur le 653, où je constate que cette année, en 2012, à nouveau, vous avez dépensé plus que ce qui avait été annoncé au budget. Donc, et ça s'était déjà produit l'année précédente. Donc moi, je demande sur le 653 un vote séparé.
Et nous voterons séparément, mais ce qui compte d'abord et avant tout, c'est le vote global, vous le savez très bien. Mais si ça vous permet d'exprimer votre position de façon aussi claire, nous voterons séparément, il n'y a pas de souci là-dessus. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Quant au reste, le train de vie, vous le gardez pour vous, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est un argument électoral que vous pourrez resservir l'année prochaine. Mais
c'est le sondage, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Non, non, mais oui, le train de vie. Le train de vie, ben, nous sommes prêts, tous autant que nous sommes, à aller au résultat sur le train de vie. Bien, d'autres remarques et d'autres interventions. Attendez, monsieur.
Juste pour vous dire que j'allais devoir quitter la séance, justement, et je donne mon pouvoir à Michel Gilles, à mon collègue Michel Gilles, qui votera bien, en lieu et place, pour les raisons d'ailleurs que vous connaissez.
Bien. Et vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Très bien. Pas d'autres interventions ? Bien, je vous remercie. Bien, vous voyez, vous partez trop tôt. Donc, nous allons passer au vote par chapitre, puisque c'est l'obligation. Nous pouvons les afficher, s'il vous plaît ?
Bon, donc le total au niveau du budget d'investissement, vous avez les différents chapitres qui s'affichent sur la colonne de gauche. Le total est de 33 147 372,76 €.
Excusez-moi, pour la suite, je voulais vous dire que si vous souhaitez marquer votre opposition sur un des éléments, vous pouvez le faire savoir de façon à ce qu'on le note. Mais globalement, vous le savez, c'est le vote global final qui comptera. Donc il n'y a pas d'abstention ni de vote contre sur le chapitre investissement, monsieur Gem.
Contre.
C'est contre. Un vote, deux votes contre. Vous avez le pouvoir, monsieur Mastrojani. C'est ça. Deux votes contre, monsieur Gem. Monsieur Devin contre. Madame De Becker contre. C'est ça. Madame Éloin contre. Monsieur Gilles contre.
Oui.
Bien. Nous passons à la suite.
Donc nous passons au vote du budget investissement recettes. Je propose.
On va avancer.
Donc à nouveau les chapitres sur la colonne de gauche et le total, pareil, 33 millions. Alors de tête, 33 millions 147 372 76.
Est-ce qu'il y a des abstentions ?
Alors, monsieur le maire, moi je m'abstiens sur le chapitre 10 tant qu'on n'a pas eu les éléments s'assurant qu'effectivement les recettes sont bien des recettes certaines. Et je vote contre le chapitre 16. Et je vous signale d'ailleurs que vous avez inscrit là sur le budget 2 100 000. Et tout à l'heure, ce que vous nous avez présenté, c'était 1 5 000. Donc il y a une différence entre ce qui a été présenté tout à l'heure.
Vous avez regardé l'ordre du jour ? Nous présenterons à votre vote 1 5 000 et non pas 2 100 000.
Et là, vous nous faites voter oui. 2 100 000. Donc, de toute façon, je vote contre cette
pour
ligne.
Pour l'équilibre
la ligne, sur le chapitre 16, je vote contre.
Très bien. Pareil sur l'ensemble. Monsieur Gem, avec son pouvoir, contre sur l'ensemble. Monsieur Gilles, chapitre 10 et chapitre 16, contre, c'est cela ?
Chapitre 10, je m'abstiens tant qu'on n'a pas de preuves. Hein, donc, et sur le 16, je vote contre.
Très bien. Donc, globalement, vous votez contre sur ce chapitre général. Monsieur Devinck ?
Sur l'ensemble.
Sur l'ensemble, d'accord. Ben là, c'est encore plus simple.
Monsieur Jeb, vous avez voté contre l'ensemble ?
Oui, bien sûr. Loin, contre. Globalement.
On va voter.
Mais monsieur le maire, quand vous dites globalement, normalement, on a le droit de voter chapitre par chapitre.
Oui, bien sûr.
Donc, quand on vote contre un chapitre, on vote contre ce chapitre, on ne vote pas contre les autres chapitres de la section.
Non, mais c'est pour vous. Mais les autres personnes votent contre l'ensemble.
Oui, d'accord, mais...
Eh bien, bah dites que pour le reste, vous êtes d'accord. Parce que moi, je ne vais pas vous... Alors, quel est le problème ?
Bon. Le problème informatique, soit on passe à la... Soit on vote le total.
Voilà, tiens. C'est idiot.
Donc, en attendant d'avoir les diapos, je vais vous citer. Donc, on passe au vote du budget fonctionnement. On a le chapitre 11 pour 10 669 130. Le chapitre 12, charge de personnel pour 23 347 389. Le 14, atténuation de produits, 248 032. Le 65, autre charge de gestion, 5 308 923. Le 66, les charges financières, 889 867. Le 67, charges exceptionnelles, 72 760. 022, dépenses imprévues, 167 861. Le 023, virement à l'investissement, 5 782 166. Et le 042, amortissement, 1 076 868. Pour un total de 47 562 997 et 26 centimes.
Monsieur Jeb, contre. Pour, avec son pouvoir.
Donc moi je vote contre le chapitre 12.
Bien. Monsieur Devinck ? La totalité ? D'accord. Madame De Becker aussi ? Madame Éloin ? La même chose. Très bien.
Donc les recettes de fonctionnement, 0,13 atténuation de charges, 375 436, 70 produits des services, 2 910 525, 73 impôts et taxes, 27 709 286, 74 dotations et participations, 8 593 275, 75 autres produits de gestion, 856 434, 76 produits financiers, 20 000, 77 produits exceptionnels, 103 500, 0,42 opérations d'or, 225 770, 0,02 résultats reportés, 6 768 770, pour un total de 47 562 997 26.
On en est au fonctionnement. Ah non, c'est ça ? On en est où ?
On en est à la fin, donc c'est fonctionnement, les recettes.
Non, ça, c'est les parkings, ça.
Non, ça, c'est les recettes
c'est bon,
de fonctionnement.
Oui. Donc, on est au... Oui, c'est le bon, celui-là.
Oui, c'est bon.
C'est bon. Donc, Monsieur Jeb, pareil. D'autres votes ? Il n'y a pas d'abstention ? Pas de vote contre ? Comment ?
Si, Monsieur Razi s'abstient, pardon, puisque j'ai son pouvoir.
Non, mais j'ai entendu qu'il s'abstenait sur tout. Donc, c'est plus simple pour nous. Hein ? Contre ? Donc, Monsieur Razi, de toute façon, depuis le début, c'est abstention sur tout. Monsieur Jeb, c'est vote contre, pour l'instant, sur presque tout. Je ne sais pas, on verra à la fin. Et puis... Monsieur Gilles, c'est là vous votez ? Vous votez ? Non.
Non, là je vote pour. Là
vous votez pour ces chapitres. Monsieur Devinck aussi, Madame De Becker aussi, Madame Éloin aussi. Donc pour. Non, je viens de vous dire, vote contre. On avance. On peut avancer. Oui, bien sûr.
Donc nous passons au vote des budgets des parkings. Au niveau de la section d'investissement, cette fois-ci pour le budget des parkings, nous avions l'année dernière un budget à 750 000 euros sur lequel nous avons réalisé 307 000 euros et nous aurons un budget cette année à évaluer aujourd'hui à 696 297 euros. Cette somme est constituée des emprunts que nous allons faire pour 181 600 euros, des immobilisations... Pardon, c'est des dépenses d'investissement, donc pas du tout des emprunts que nous allons faire, des emprunts que nous allons rembourser. Des immobilisations incorporelles pour 2 000 euros, des immobilisations corporelles pour 61 500 euros, des travaux pour 450 197 euros et des dépenses imprévues pour 1 000 euros. Il s'agit ici donc du vote du budget investissement, les dépenses pour le... Pour le pari.
Ok, on avance.
Donc, voilà pour les... Je pense que vous avez...
Après, j'ai le vote.
Oui, c'est ça, moi, je suis au vote. Voilà. Donc, les dépenses bien. D'investissement dont je viens de vous parler.
Très bien. Plan vote qui s'abstient, donc M. Razi. Qui vote contre ? Vous vous abstenez aussi ? Sur tous les parkings, d'accord ? Alors, M. Razi, Mme De Becker, Mme Éloin s'abstiennent sur l'ensemble des chapitres des parkings, des parkings. D'autres votes contre ? Pas d'abstention, mais des votes contre ? Il n'y en a pas ? Merci. Donc, nous avançons.
Au niveau des recettes d'investissement, nous avons des réserves pour 33 838 euros, emprunt et dette 2 000 euros, le virement qui va venir de la section de fonctionnement pour 274 000 euros et différentes opérations d'ordre pour 349 000 euros, donc ce qui nous donne le même total, c'est-à-dire 696 297 11.
Les mêmes votes pour pour ce chapitre-là, ces chapitres, pas de problème.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement cette fois-ci, on a des charges à caractère général pour 200 000 euros, des charges de personnel 293 000 euros, virement à l'investissement, ce qu'on a vu tout à l'heure, 274 000 euros, des amortissements pour 349 000 euros, d'autres charges de gestion 20 000 euros, des charges financières 259 000 euros, des charges exceptionnelles à hauteur de 1 048 000 euros et 10 000 euros de dépenses imprévues, ce qui nous fait un total pour le vote du budget de fonctionnement pour les dépenses 2 456 603.
Même vote. OK. Donc vous notez.
Donc nous avons un résultat reporté, vous le rappelez, on en a parlé tout à l'heure, enfin au tout début de la séance, de 1 266 000, donc qui représente une recette de fonctionnement pour les parkings, et puis différents produits des services pour 1 190 000, ce qui nous permet d'équilibrer notre budget de fonctionnement qui s'élève en tout à 2 456 603 000 euros, 603 euros.
Très bien. Donc les mêmes votes que pour le début des chapitres des parkings. Merci. Oui.
Je n'ai pas voulu vous interrompre pendant le vote pour les parkings, mais je n'ai pas eu le temps de donner mon explication de vote sur le budget.
Non, mais allez-y. Allez-y.
Voilà. Donc l'explication de vote est la suivante, c'est que on a entendu que vous flattiez de maintenir les taux depuis plusieurs années. Seulement, vous avez quand même oublié de rappeler qu'entre 2002 et 2004, vous avez augmenté de 47% les impôts à des faux prétextes, puisque c'était pour l'affaire du parking Saint-Germain, pour lesquels vous aviez mis 4 millions d'euros de réserves, qui ont été mangées en partie à d'autres fins. Donc, effectivement, vous avez pu maintenir, grâce à ce prélèvement exorbitant sur tous les Nogentais dans cette période-là, ça vous permet de ne pas augmenter les impôts. Je pense que d'autre part, ce qui serait bien, c'est de baisser les impôts. Parce que les Nogentais, pour certains, ils ont beaucoup de mal à payer leurs impôts locaux, qui ont atteint pour certains des montants colossaux. Donc l'objectif, c'est ne faut pas se flatter de maintenir, surtout quand on a ponctionné des montants aussi colossaux dans les années antérieures. Surtout, l'objectif, c'est de baisser et d'arrêter d'engager des dépenses d'investissement qui vont générer des dépenses de fonctionnement dans les années qui viennent, qui ne sont absolument pas évaluées, absolument pas mesurées, et qui nous permettent d'avoir des grandes difficultés dans les temps qui viennent. Voilà.
Au risque de vous déplaire, d'abord, ce n'est pas 40%, c'est 25%.
Entre 2002 et 2004, c'était 47%.
Madame, c'est 25%.
47% en deux coups.
Nous n'avons pas augmenté de 47%.
47% en 2004 non, et 2002 et 2004, le cumul des deux années fait 47%. Si.
Mais on va vous donner les chiffres.
Ah bah oui, hein? Je les ai.
En 2004, on a baissé, madame. L'année suivante, on a baissé.
Vous avez augmenté de 47%.
Le deuxième point, c'est que les sommes en question n'ont pas servi à se promener dans la rue. Elles sont en réserve, elles sont en provision.
Non, il n'y en a plus que la moitié.
Elles sont en provision, madame.
Il n'y a plus que la moitié seulement de la provision de l'augmentation des impôts de 2002.
Je crois que vous n'avez pas bien suivi l'évolution
de ces...
Non.
J'ai très bien suivi.
C'est trop simple de schématiser cela. Mais écoutez, puisque tout à l'heure, vous n'étiez pas là, j'ai dit à votre collègue que nous allons faire un point sur les contentieux. Eh bien, nous vous montrerons que vos affirmations sont à la limite de la vérité, et ça, vous le verrez par la présentation que nous vous ferons à ce moment-là.
Okay. À la limite de la vérité, pour moi, oui. C'est la vérité. Hein,
oui, madame. Je pense que je serai à votre place un peu plus modeste concernant les contentieux dont nous avons hérité de votre mandature.
Il n'y a pas une question de modestie,
si,
il y a une question,
madame,
de réalité.
Alors,
financière.
Disons humilité, parce que vous nous avez transmis un témoin avec deux contentieux, madame, qui n'étaient pas forcément faciles à régler. Et vous verrez que nous avons bien avancé. Seulement, en ce qui concerne le stationnement, nous avons été obligés de verser des sommes importantes que nous attendons en retour depuis notre appel face à la décision qui a été prise par le tribunal.
Et concernant le parking Saint-Germain, c'est pas moi. Attendez.
Non, mais Peut-être.
C'est énorme.
Mais c'est bien vous qui gériez ce dossier.
Non, mais attendez, c'est vous qui avez stoppé le contrat avec la société de gestion des parkings.
Non,
c'est pas
avant, madame. Non. Le contentieux, il a démarré avant cela. Il a démarré à votre époque.
Il y avait un certain nombre de problèmes à résoudre. Il n'y avait pas le contentieux que vous avez généré.
Vous êtes en train de réécrire l'histoire, là. Alors, on vous la rappellera à l'occasion de la réunion de travail que nous ferons sur les contentieux de la ville. Et chacun y trouvera sa vérité. Bien. Alors,
non.
Est-ce qu'il y a...
La vérité, il y a une vérité. Au niveau comptable, il y a une vérité.
Mais c'est pas la même que la... Non, mais nous n'avons pas la même que la vôtre, manifestement. Ben,
4 millions de réserves, vous aviez bien 4 millions de réserves que vous avez diminuées de moitié. Il y en a plus que 2. C'est vrai ou pas?
On vous le montrera.
Mais c'est vrai ou pas, ça?
On vous le montrera.
Mais il n'y a pas montré, c'est évident.
Non, mais...
C'est dans l'annexe du budget, le reste bien des sûr. Provisions. Si bien on compare sûr. Avec les provisions initiales bien qui avaient augmenté... n'est généré oui. l'augmentation d'impôts
oui.
pour le contentieux.
Bien sûr.
Bah, donc, il n'y a bien que la moitié.
Et alors?
Donc, on a bien usé la moitié de la provision qui était faite pour le contentieux à autre chose. Et on n'a pas baissé les impôts pour autant. On est d'accord là-dessus.
Si.
C'est une réalité
comptable. On les a ramenés de combien à combien?
De 4 millions à 2 millions,
non,
même plus, 4 millions 4.
Non, en pourcentage, madame.
Mais on s'en fiche des pourcentages, les valeurs absolues sont très intéressantes. Mmh. Donc ça veut dire que la moitié de la réserve de la provision a servi à autre chose qu'à gérer le contentieux. C'est évident. Et ça fait des années que cet argent, donc ça fait maintenant 10 ans que cet argent est ponctionné au Nogentais tous les ans. Ces augmentations qui ont été faites de 4 millions d'euros à l'époque... Tous les ans, les Nogentais ont continué à diminuer 4 millions d'euros, 4 millions d'euros, 4 millions... Alors évidemment, on a pu se permettre de faire des choses utiles ou inutiles, mais c'est la réalité comptable. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire le contraire de ça. Alors maintenant, les menaces, madame, un petit peu de modestie, parce que vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai déjà tout entendu là-dessus.
Bien sûr, madame. Vous savez comment nous solderons ce contentieux? Vous le savez, vous?
De toute façon, c'est l'inconnu. Monsieur Delman a rencontré tellement de mensonges, tellement de provocations dans cette affaire, et il va nous ressortir quelque chose sans doute un jour. Bon, le problème du contentieux du parking Saint-Germain, c'était pas drôle. Ça date de 98. Je vous rappelle que ça fait quand même un bail maintenant. Ça fait 14
ans. Bien sûr. Et pour l'instant, nous.
Et pendant ce temps, on a ponctionné 4 millions d'euros chaque année au Nogentais. Au prétexte qu'il fallait financer
totalement.
Le contentieux du parking Saint-Germain.
Non, mais je crois, je rêve, 4 millions d'euros tous les ans, c'est ça. Bon, bah écoutez, vous me donnez une bonne raison pour refaire un point sur cette affaire et vous montrer que, a priori, vous avez une façon particulièrement simplifiée de présenter la situation, mais on va vous faire un résumé.
Pour les Nogentais, c'est pas simplifié, madame, d'être ponctionné comme ça tant d'années.
Arrêtez, vous m'avez fait le coup en 2008. Et vous voyez ce que ça a donné par la suite. Alors, ce type d'affirmation, on en parlera à l'occasion du point que nous ferons, et nous publierons le point sur les contentieux, de façon à ce que tout le monde connaisse les chiffres de cette affaire. Sur ce, je peux vous garantir que si nous n'avons pas été obligés de payer les 6 millions d'euros de cette affaire, moins l'assurance, moins la couverture en assurance, c'est peut-être parce que Monsieur Delman et d'autres ont travaillé sérieusement avec nos conseils pour faire en sorte que même si la procédure a duré, il se trouve qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas été condamnés.
Eh bien, on n'a rien payé non plus. Et heureusement que Monsieur Delman a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on paye le moins possible. Ça me paraît évident, non?
Bien. Bon, vous avez trouvé la bonne raison de ne pas voter le budget, mais c'est très bien. Madame Renouille.
Oui, je voulais juste dire une petite précision pour tout le monde. Notre taux d'imposition aujourd'hui est en dessous de la moyenne de la strate, c'est-à-dire qu'il est inférieur à la moyenne du taux d'imposition des villes de la même taille que nous.
On peut parler aussi là-dessus? On peut se gargariser d'être dans la moyenne, au-dessus de la moyenne, mais la France, elle est... Pas du tout dans cette situation. Elle va mal et les collectivités vont mal. On ne peut pas se réclamer d'être dans la moyenne au-dessus, en dessous. Il faut baisser les dépenses, il faut baisser les charges, il faut baisser les impôts. Les gens ne peuvent plus payer.
Très bien. Bien, écoutez, nous avons pensé qu'il fallait à la fois garder les services publics au bon niveau et en même temps optimiser les dépenses et les recettes. C'est... Modestement, voilà ce que nous avons essayé de faire, et jusqu'à preuve du contraire, je pense que beaucoup de villes essaient de faire la même chose que nous, plutôt que de mettre la clé sous le paillasson et de rendre à chacun sa liberté pour les, le scolaire, pour les crèches, pour la culture, pour le social, etc. C'est vrai que les associations, je tiens à vous dire que c'est anormal que nous maintenions la même somme depuis des années. C'est anormal, on pourrait
oui,
aussi
on peut
baisser.
Se poser des questions.
On peut vous trouver une liste d'économies potentielles très importantes. Seulement, je ne pense
D'accord,
pas que
déjà.
Ce soit ce qu'attendent un certain nombre de familles nogentaises. Bien.
Ont les moyens, oui, ils peuvent, effectivement,
bon,
mais ceux qui non, les ont plus...
Madame de Becker, s'il vous plaît, nous avons voté, maintenant le budget est adopté, et que ce soit le budget annexe comme le budget principal, et nous allons poursuivre la séance de ce conseil municipal en passant à des délibérations très importantes pour nous. C'est au risque de déplaire, d'abord le vote des taux d'imposition. Et du produit fiscal, bien sûr.
Oui, donc il ne change pas par rapport à 2012, on en a beaucoup parlé, et on a un produit 2013 de 21 019 447.
Bien, y a-t-il des abstentions?
Alors, je pense que M. Arazi s'abstient aussi là-dessus.
Oui, très bien. Des votes contre? Il n'y en a pas. Ensuite, subvention allouée en faveur des associations. M. Hirt, Mme Nataf.
Voilà, alors on va vous faire un petit duo. Donc, je pense que vous allez voir apparaître les catégories traditionnelles comme chaque année, au travers desquelles, enfin à l'intérieur desquelles nous répartissons les différentes subventions. Ce que je voulais simplement vous dire, moi en ouverture, c'est que nous finançons donc en 2013, nous subventionnons 167 associations nogentaises, ce qui est loin d'être négligeable. Que bien sûr, nous avons souhaité réaffirmer l'engagement de la municipalité en faveur de la dynamique associative, mais que nous avons aussi pris en compte la nécessité de maîtriser ces dépenses. Et donc, au global, à périmètre équivalent, entre 2013 et 2012, nous avons une baisse de 0,8%, à l'exception de deux secteurs que nous avons sacralisés, qui sont le social et le scolaire. Voilà. Et puis, la petite nouveauté, juste avant de passer la parole à Michel Nataf, c'est que nous avons souhaité pour la première fois faire apparaître, en complément des subventions de fonctionnement ou des subventions particulières sur projet, la valorisation des avantages en nature que la ville met à disposition des différentes associations, que ce soit les salles, le matériel, etc. Mais Michel Nataf va vous en dire plus.
Merci. Donc, on peut avoir les tableaux ?
Oui. On peut passer au tableau ?
Peut-être un tableau pour que je puisse... Non, c'est pas ça. Un tableau de subvention. Il n'y a pas. Ah, il n'y a pas ? Bon. Alors, je voulais vous dire que dans les tableaux, on a fait paraître une nouvelle colonne qui s'intitule « Prestations en nature ». Nous avons travaillé avec les services sur la valorisation des avantages en nature accordés aux associations, conformément à l'obligation faite aux collectivités de publier la liste annuelle de toute subvention versée sous forme monétaire ou d'avantages en nature. J'ajoute que ce travail, qui a demandé beaucoup de temps pour réunir les différents éléments, a porté surtout sur l'aspect locaux mis à disposition. Le mode d'évaluation a été fait selon plusieurs principes, suivant qu'il s'agit de locaux partagés par des associations utilisant régulièrement les créneaux dans les différentes salles de la ville. Dans ce cas, nous avons déterminé un coût de mètre carré heure qui a été appliqué à chaque association en fonction de leur nombre d'heures annuelles d'utilisation et la surface de la salle utilisée. S'il s'agit de locaux à usage exclusif, nous avons déterminé un loyer mensuel au mètre carré et pour cela, on a choisi de prendre comme référence un loyer payé par la ville à Val-Office, qui est évidemment complètement inférieur au marché privé. Concernant les gymnases et les espaces sportifs, nous avons pris en compte le coût annuel de l'ensemble des espaces sportifs, y compris le stade et sa redevance. Et ensuite, nous avons sorti de cela un tarif horaire qui a été appliqué à chaque association en fonction du nombre d'heures d'utilisation. Cette étude complexe a le mérite d'exister aujourd'hui. Ce projet a été long à mettre en place, mais il n'est pas encore parfait. certains locaux ont été oubliés et n'ont pas été valorisés, comme des bureaux mis à disposition de plusieurs associations sportives, la salle à Robaz, les chalets à MAP, et encore d'autres petites choses qui restent à préciser. La mise à disposition des créneaux à la piscine n'ont pas été valorisés pour nos gens de natation et les dauphins. Et ensuite, nous sommes donnés. Donc, nous savons à peu près ce que ça peut représenter aujourd'hui, c'est-à-dire pour nos gens de natation 130 000 euros et les dauphins 28 000 euros. Nous nous sommes donc donnés pour mission de poursuivre ce travail tout au long de l'année afin de l'améliorer en rajoutant les éléments manquants et en vérifiant la cohérence des différents tarifs. À noter également un événement important dans la vie associative qui a été volontairement omis dans le calcul, il s'agit du village des associations. Il est cependant intéressant de vous communiquer que nous estimons un budget global de 35 000 euros, soit environ 300 euros par association, ce qui n'est pas négligeable. Pour terminer, je voudrais vous donner deux chiffres très significatifs. Le total des prestations en nature, toute catégorie d'association, est égal à 927 111,05 euros. Et les subventions, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 1 222 325 euros, ce qui peut nous permettre quand même d'évaluer l'effort de la collectivité à l'égard des associations. Je tiens à remercier les services pour leur aide, pour leur participation et mes collègues pour leur participation dans la détermination des montants attribués aux associations de leur secteur. Merci.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur le secteur associatif? Il n'y en a pas. Donc, je vais passer au vote. Qui s'abstient sur ce rapport? Une abstention? Deux abstentions? Monsieur Gilles et Monsieur Arazi, c'est ça? Ok. D'autres votent contre? Il n'y a pas de vote contre, je vous remercie. Donc nous arrivons aux établissements, les subventions en faveur des établissements publics, dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Pour certaines, ce sont des subventions pour délégation de services publics. Pour d'autres, ce sont des soutiens à la Seine Bateau, au Baltar Contemporain, qui est une biennale d'art contemporain, le Centre communal d'action sociale. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Non.
Non, je dis simplement, je m'abstiendrai pour ce budget-là, puisque j'estime que pour le CCAS, on ne fait pas assez d'efforts.
Très bien, donc deux abstentions sur cette délibération. D'autres des abstentions? Nous sommes en abstention. Alors deux abstentions, Monsieur Gilles et Monsieur Arazi, Monsieur Devinck, abstention aussi? D'accord. D'autres abstentions? Pas d'abstention. Vote contre? Il n'y en a pas. Bien. Ensuite, répartition de la subvention départementale.
Comme chaque année, le département du Val-de-Marne attribue aux collectivités une dotation de fonctionnement destinée à soutenir les actions menées sur le territoire de chaque commune par les associations. En ce qui concerne la ville de Nogent, c'est une dotation de 19 812 euros que nous avons répartie entre les différentes catégories qui sont présentées là, c'est-à-dire le caractère social, culturel et social.
Très bien, y a-t-il des questions sur cette répartition? D'ailleurs, nous avons reçu des éléments pour la suivante, récemment du département, oui, pour le sport. Abstention? Vote contre? Il n'y en a pas, merci.
Monsieur le maire, j'ai oublié de préciser justement que ce qui concerne la dotation pour le sport, nous ne la gérons pas. Elle est adressée directement aux associations sportives. Là, ça ne concerne que ces trois secteurs.
Elle a été envoyée directement aux associations sportives, mais après que nous ayons été interrogés.
Voilà.
D'accord. Tiens, c'est à toi. La suivante, c'est la 36.
La compétence donnée à Monsieur le maire en matière d'emprunt et de ligne de trésorerie. Donc on donne délégation au maire pour contracter des emprunts pour un montant maximum de 1 500 000 euros, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Monsieur le maire est autorisé à procéder aux consultations nécessaires et à signer tout contrat répondant aux critères retenus par le conseil municipal. La durée des produits de financement ne pourra excéder 25 ans et une mise en concurrence d'au moins 2 établissements spécialisés sera effectuée.
Très bien. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Monsieur Cheb et son pouvoir, Monsieur Devinck, Monsieur Gilles. Ensuite, non, vote contre, excusez-moi. Monsieur Pasternak.
Bonsoir à tous. Je vais vous parler de la création de 2 salles de classe situées à l'école maternelle Fontenay. L'évolution des effectifs liée à l'augmentation du nombre de nouveaux logements, conjuguée aux adaptations nécessaires pour accompagner le projet de restructuration de l'école maternelle Victor Hugo, implique d'accueillir à court terme une classe supplémentaire à l'école Fontenay. Afin de pouvoir mener à bien ce projet, il est donc nécessaire d'augmenter la surface des locaux. Pour cela, le bâtiment préfabriqué abritant actuellement une salle de classe sera démoli et remplacé par un bâtiment plus spacieux et confortable, répondant aux normes actuelles, notamment en matière d'accessibilité, et permettant d'accueillir 2 salles de classe ainsi qu'un bloc sanitaire. À cet effet, la consultation pour désigner le maître d'œuvre a été lancée pour conclure un marché à procédure adaptée. Il convient d'autoriser le maire à déposer une demande de permis de construire et de démolir.
Très bien. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il n'y en a pas. Ensuite, Monsieur Fontaine étant absent, je passe la parole à Monsieur David pour les rapports 38 et 39.
Bien, mes chers collègues, il s'agit pour la délibération 38 de l'abrogation de la délibération numéro 11-192 relative à la promesse de constitution de servitude au profit de la SARL Gambetta. Dans le cadre de la réalisation de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation, cette SARL avait sollicité la commune afin que celle-ci lui accorde une servitude de passage volumétrique pour véhicules automobiles ainsi qu'une servitude de passage de canalisation. Au profit donc d'une sur la parcelle qui était cadastrée L180 et le tout moyennant une contrepartie financière avec une indemnité s'élevant à 120 000 euros. Par délibération du 14 décembre 2011, le conseil municipal a approuvé le projet de constitution de servitude et a autorisé le maire à signer la promesse. Cette promesse a été signée par les parties le 24 janvier 2012. Mais l'acte prévoyait que cette promesse était consentie pour une durée expirant au plus tard le 30 septembre 2012 à 16 heures. Or, aucun acte concrétisant la promesse n'a été conclu avant cette date. Il convient donc de considérer que cette promesse de constitution de servitude est tombée, car non réalisée. Et dans un but de clarté, on vous propose d'abroger cette délibération.
Très bien. Donc, y a-t-il des questions ?
Oui. Non, juste un commentaire. Comme on a voté contre, on est très content de cette délibération et on votera avec plaisir pour.
Oui, nous n'étions pas obligés de la présenter, mais j'ai souhaité repasser devant le Conseil pour sanctionner cette décision. Merci. Donc, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Nous continuons sur la rue Ancelet.
Alors, la délibération 39 concernant l'acquisition d'une propriété 6, 3 rues Ancelet. La ville de Nogent et la communauté d'agglomération de la Vallée de la Marne mènent depuis plusieurs années une réflexion sur le réaménagement du marché. Les principaux objectifs poursuivis sont la redynamisation de l'activité commerciale associée à la construction d'un marché aux normes sur ce secteur, l'amélioration de cet environnement par la création d'un espace piétonnier et l'implantation de services publics et de logements. Les propriétaires du 3 rue Ancelet se sont portés vendeurs de leurs biens, compris dans le périmètre de l'étude urbaine en cours et présentant un intérêt dans le cadre de la future opération d'aménagement. Ainsi, il apparaît pertinent pour la commune d'acquérir le bien, d'autant que les biens situés à proximité ont été acquis durant les deux dernières années. Après discussion avec le vendeur, qui souhaitait céder son bien à 1 050 000 euros, un accord sur le prix a été trouvé à 1 million d'euros. Ce prix est inférieur à la marge de 10% par rapport à la valeur du bien estimé par France Domaine, 918 000 euros, ce qui aurait conduit à un prix d'acquisition de 1 009 800 euros. À titre d'information, la surface habitable du bien est de 180 mètres carrés. Il vous est donc proposé d'acquérir le bien susmentionné et d'autoriser Monsieur le maire à prendre tous les actes nécessaires à cette acquisition.
Très bien. Monsieur Gilles.
Non, monsieur Merch, je pense qu'il faudrait quand même perdre l'habitude systématiquement d'accorder un plus par rapport aux évaluations des domaines. Surtout là, dans le contexte immobilier qui est en train de se freiner, il n'y a aucune raison. Je crois que les prix des domaines étaient tout à fait raisonnables. Il n'y a aucune raison de payer plus cher.
C'est ce qu'on appelle une négociation de gré à gré qui permet de passer à l'acquisition en vue d'un projet structurant pour la ville. Et ça s'appelle une réserve foncière en vue de ce projet. Bien, y a-t-il des abstentions sur cette acquisition? Des votes contre? Deux votes contre, comment? Oui. Trois votes contre. Comment?
Tu as rasé votre contre aussi.
Ah bon, il vous l'a dit tout à l'heure. C'est... D'accord.
Bah, vous voyez,
comme quoi, progressivement, il arrive à passer à l'acte. Hein. Et M. Devin, qui est votre contre aussi. Oui. Très bien. Alors, à titre indicatif, les propriétés qui ont été achetées progressivement depuis les deux dernières années sont louées au profit de la commune le temps que le projet se mette en place. Bien, pas d'autres commentaires? Merci. Ensuite, nous passons à alors Monsieur Pasternak, concernant le parking Marie-Curie.
Oui, je vous parle de la création d'un nouveau parking payant Marie-Curie rue Hoche, fixation des tarifs et modification des moyens de paiement au parking du port rue Hoche également. En raison des besoins de stationnement dans le quartier du port, la commune va créer sur l'ancien site de l'école Marie-Curie, un parking de 116 places. Il convient donc d'intégrer ces nouvelles places dans le périmètre de stationnement payant. Par ailleurs, pour faciliter les modalités de paiement au parking du port et Marie-Curie, des caisses automatiques vont être installées et des bornes de sortie seront équipées d'un système de paiement carte bleue. Vous avez annexé les tableaux du tarif de ces deux parkings, en notant que sur chaque parking, s'il y a un ticket perdu, ce sera 14 euros pour Marie-Curie et 12 euros pour le parking du port, et qu'il y a une gratuité de 30 minutes au parking Marie-Curie.
Alors ce rapport revient en conseil municipal, puisque la dernière fois, il y avait eu une erreur sur les tarifs. Monsieur Gem et ensuite Monsieur Hirt.
Oui, j'essaye de comprendre de nouveau. Effectivement, la dernière fois, il y avait une erreur, mais là, alors, pourquoi déjà ils ont-ils des tarifs différents alors qu'ils sont l'un à côté de l'autre? Et deuxièmement, pourquoi le ticket perdu d'un côté vaut 14 euros alors que les 24 heures, c'est 14,20, et dans l'autre, le ticket perdu vaut 12 euros et les 24 heures, c'est 12 euros? Donc, on va dire qu'il y a une certaine cohérence, voire admettre plus cher pour éviter que le ticket perdu ne soit pas utilisé pour quelqu'un qui reste 48 heures. Mais pourquoi ces différences de prix? Pourquoi ces incohérences?
Ben c'est tout simplement pour demander aux gens d'aller plutôt dans le parking du port que dans celui de Marie-Curie.
Voilà. Le parking du port est en sous-sol. Et ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte que le parking qui sera en surface, soit libéré pour notamment toutes les activités, que ce soit la piscine, le stade, l'hôtel, etc., etc. C'est simplement ça. Y a-t-il des abstentions, des votes? Pardon, Stéphane.
Oui, je voulais juste, monsieur le maire, signaler que les 30 minutes gratuites répondaient à une suggestion formulée par le conseil de quartier du port et dont certains membres sont présents dans la salle. Voilà, je pense qu'on peut se satisfaire que cette demande aboutisse.
Bien. Donc, pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Création de vacations, alors là, c'est Madame Gastine et Madame Munzer. Vous voyez comment vous faites, Madame Gastine.
Non. Alors, création, merci monsieur le maire. Création de vacations pour le conservatoire, pour l'animation de mini-concerts. Depuis l'an dernier, le conservatoire propose aux élèves de cycle 3 des écoles élémentaires de la ville, des CM1 et CM2, 3 mini-concerts dans l'année, dont l'objectif est de leur proposer en 2 ans 6 concerts, une culture instrumentale grâce à l'expérience du concert et la connaissance de différents instruments. Hormis les professeurs du conservatoire, il y a un intervenant extérieur qui est sollicité et il s'agit bien sûr d'un spécialiste de l'instrument qui est mis en avant lors de ce concert. Il convient par conséquent de fixer la rémunération de ces intervenants sous forme de vacation à raison de 217 euros bruts, soit 200 nets pour la durée de l'opération.
Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Nous continuons sur le 42, puis sur le 43.
Alors, le 42. Alors, modification du tableau des effectifs dans le cadre de la loi 2012-347 du 12 mars 2012. Transformation de certains CDD en CDI. Alors, cette loi oblige désormais les collectivités à proposer aux agents, remplissant certaines conditions, une transformation de leur CDD en CDI avec une date d'effet au 13 mars 2012. Alors, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies. Vous les avez, qui doivent être affichées. Les agents non titulaires qui ne remplissent pas ces conditions d'ancienneté au 13 mars 2012 ne peuvent bénéficier d'un CDI de plein droit. Ils poursuivent leur contrat en cours. Alors, lorsqu'un agent remplit les conditions, une proposition écrite est formalisée. L'agent peut refuser par écrit et dans ce cas, il poursuit son CDD jusqu'à son terme. À ce jour, il y a 12 agents qui remplissent les conditions pour se voir proposer la transformation de leur CDD en CDI. 2 attachés, 1 éducateur des APS et 9 adjoints techniques de deuxième classe.
Voilà, donc c'est ce dont, enfin, ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Voilà. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, de toute façon, c'est un processus qui a été décidé. Vous m'excuserez, monsieur Jeb, mais par la droite avant de s'en aller. Bien. Tu vois, pour une fois. Pour une fois.
Alors,
il n'y a pas de vote contre ni d'abstention, merci. Ensuite, le 43.
Oui, alors toujours dans le cadre de la loi 2012-347 du 12 mars 2012, on peut procéder donc à la titularisation de certains agents non titulaires. Alors, cette loi permet l'accès à l'emploi titulaire par le biais de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels pendant une durée de 4 ans.
C'est la même loi, mais oui, c'est avec la même son chose. Application.
Voilà.
Donc, elles se tiennent, les deux délibérations.
Voilà, donc...
Je pense que le mieux, Annie, c'est que je...
Voilà, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies. Oui. Et là, on a 19 agents qui remplissent les conditions.
OK, donc... Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Madame Munzer.
Il s'agit de l'approbation des tarifs pour la vente de sacs, pochettes, trousses en bâches recyclées. Pour différentes manifestations événementielles, vous avez sûrement remarqué des calicots, etc., en bâches. Nous avons décidé de faire appel à un ESAT, donc un établissement...
Aidé par le travail,
exactement, pour recycler ces bâches et en faire des trousses, des pochettes, etc. Donc nous vendons en 2013 ces éléments au prix en fait auquel ils nous reviennent, tout simplement.
Y a-t-il des abstentions et des votes contre? Il n'y en a pas. Monsieur Rasquin. Les rapports 45 et 46.
Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la mise en place pour les séjours avec nuitée d'un règlement intérieur commun au service sport jeunesse et au club de loisirs et découvertes. Donc, c'est l'harmonisation de ce règlement intérieur qui sera donc commun au service sport jeunesse et au club de loisirs découverte, et qui fixe les modalités d'organisation des séjours ainsi que les obligations des organisateurs et des participants.
Très bien. S'il n'y a pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Le rapport 46.
La signature d'une convention de partenariat entre la commune et la cité scolaire Édouard Branly relative à l'organisation de la mesure de responsabilisation. Donc, le code de l'éducation définit les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves des établissements d'enseignement du second degré. Parmi ces sanctions figure la mesure de responsabilisation. C'est un outil de l'éducation nationale pour éviter un processus de déscolarisation en permettant à l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte, tant à l'égard de la victime de la communauté éducative. Ça permettra à l'élève de prendre conscience de ses potentialités et favoriser un processus de responsabilisation. Elle a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité culturelle ou de formation à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder 20 heures. Au cours de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure d'accueil, assister ou participer à l'exécution d'une tâche. Compte tenu de la mesure de responsabilisation, doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Dans ce cadre, la commune proposera un parcours pédagogique d'accueil au sein de ses services, élaboré en accord avec l'établissement et en adéquation avec la faute commise par le jeune. À ce titre, un représentant de l'administration municipale siégera lors de la commission éducative, instance chargée de prononcer la mesure, composée du chef d'établissement, du conseil principal d'éducation, le CPE, de parents, de professeurs, d'élèves, de parents. La convention fixe en outre les modalités d'exécution et le cadre réglementaire de la mesure. Elle permet également de formaliser l'engagement du jeune et de son représentant légal avec l'établissement scolaire et la structure d'accueil. C'est essentiellement fait pour ne pas laisser traîner un élève qui a été exclu de son collège pendant un certain temps, que ce soit chez lui ou dans les rues de Nogent. Et donc la commune va proposer dans certains de ses services d'accueillir ce jeune dans ce cadre.
Bien, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Oui, monsieur Chen.
Oui, monsieur le maire, je voulais simplement ajouter à ce qu'a dit Bernard Asquin que ce type de projet, de dispositif, s'intègre pleinement dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance qu'on a signé avec l'État et que ces dispositifs, en effet, étaient prévus et qu'on avait abordé ce sujet lors du dernier CLSPD.
Ok, pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Ah, pardon, monsieur Devin, contre?
Non.
Abstention. D'accord. Pas convaincu. D'ailleurs, parallèlement à cela, M. Echen, pour certains faits délictueux, nous avons
oui, tout
aussi
à fait.
Un dispositif équivalent.
On a en effet un dispositif équivalent de façon à pouvoir recevoir des jeunes qui auraient pu être mis en cause, qui se seraient mis en cause dans des faits de délinquance avérés sur la ville et qu'on est amené à recevoir ensemble avec les parents et la police, puisque ce sont pour la plupart des mineurs.
Bien. Donc, une voix contre.
Abstention.
Une abstention, pardon. C'est contre ou abstention? Abstention, excusez-moi. Bien, monsieur... attendez. 47, oui, donc c'est madame.
Il s'agit de l'approbation de la convention de partenariat entre la ville de Nogent-sur-Marne et l'association Rocquennes-Nogent. L'association Rocquennes-Nogent qui a décidé d'organiser au pavillon Baltard le 6 avril prochain une soirée autour du rock. Donc la convention de partenariat dit plusieurs choses, notamment que la commune de Nogent s'engage à être partenaire de Rocquennes-Nogent, que l'association s'engage à faire des tarifs accessibles à tous. Je me permets de préciser que j'avais demandé ces tarifs pour les annonces en conseil municipal et que malheureusement je ne les ai pas eus. Pardon. Merci. Donc 25 euros et 35 euros. Et voilà, et donc c'est le 6 avril prochain, et il reste des places.
C'est bien lancé?
Oui.
Actuellement, je crois qu'il y a pas mal de...
Oui, il y a pas mal de réservations. Il y a beaucoup de gens qui nous font part du fait aussi qu'ils sont très contents de revoir un concert au pavillon Baltard. Mais la ville n'est pas organisatrice, hein, elle est simplement partenaire.
Bien, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Madame Munzer, on continue.
Alors, il s'agit du Festival de l'eau, les 25 et 26 mai 2013. L'année dernière, on avait été sollicité au dernier moment, en fait, pour le Festival de l'eau en remplacement d'une commune qui était défaillante. Je rappelle que c'est un festival organisé par le département. Alors, la slide n'est pas la bonne, bon, c'est pas grave. Et donc, cette année, le Festival de l'eau a lieu les 25 et 26 mai. Et évidemment, ce sera autour de la Marne. Et vers le port que se dérouleront les activités nogentaises.
Est-ce qu'il y a des abstentions, vote contre? Il n'y en a pas. Madame Nataf.
Tarif de location des salles municipales pour l'organisation de réunions politiques pendant les périodes préélectorales. Afin de garantir le même traitement de toutes les demandes de réservation de salles pour des réunions politiques pendant les périodes électorales, une organisation particulière est proposée. Dans les trois mois précédant une élection, la première réservation d'une salle de quartier type Damotte, Tissoire, Dreyfus ou les préaux des écoles sera gratuite. Toute deuxième réservation sera facturée à hauteur de 130 euros, ce qui correspond actuellement au tarif des assemblées générales, conférences et réunions. Ensuite, lors de la période électorale, il sera mis à disposition à titre gratuit une salle Zola, Charles de Gaulle ou préau d'école, pour une réunion publique par liste candidate et par tour, soit deux réservations gratuites pour une élection à deux tours. Toute autre réservation sera facturée à hauteur de 130 euros. Une convention devra être établie lors de chaque mise à disposition. Une attestation d'assurance ainsi qu'une caution de 82 euros seront également exigées, même en cas de mise à disposition à titre gracieux. Afin de permettre l'organisation des réunions mentionnées sur l'ensemble de la ville, les salles mentionnées ci-dessous pourront être utilisées en fonction des disponibilités. Donc nous avons les salles Damotte et Tissoire à la Maison des Associations, la salle Zola et Dreyfus, la salle Charles de Gaulle et les préaux des écoles Victor Hugo, Gallieni, Fontenay et Guimauquet.
Voilà, nous avons essayé d'être à la fois le plus souple possible et donner des possibilités équivalentes à toutes les candidatures, sachant que, bien sûr, dans la phase préliminaire, la deuxième, elle est vraiment dans la période électorale pure. Les trois mois précédents, certaines listes peuvent demander une fois une salle, d'autres trois fois. C'est quelque chose qu'on voulait mettre en place de façon un peu plus claire que ce qui se passait jusqu'à présent. Monsieur Gilles.
Oui, monsieur le maire, je fais écho de la position de Marc Arasi, qui a dû probablement l'exprimer en commission, mais il trouve que c'est un peu gênant par rapport aux petites formations. Autant les grandes formations qui, de toute façon, ont des financements qui arrivent du national n'ont pas trop de difficultés. Les formations locales, et je pense que c'est notamment le cas de la sienne, et ça peut être le cas d'autres aussi, n'ont pas ce genre de facilité financière. Et c'est vrai que d'imposer un 130 euros dès la deuxième réunion, c'est un peu discriminatoire par rapport aux petites formations qui n'auront pas la capacité financière à le faire. Voilà. Donc, et donc, à ce titre-là, il votera contre. Et c'est vrai que je trouve que ces arguments ne sont pas complètement en dehors de la réalité, quoi.
Écoutez, moi je peux vous dire que j'ai vérifié dans les villes voisines quel dispositif était mis en place. En dehors de la salle que vous êtes obligé dans la période purement électorale d'attribuer aux candidats, le reste est géré comme toute association, dans la mesure où ces tarifs-là, ces dépenses-là, sont intégrées dans les comptes de campagne directement. Donc, là, nous avons essayé vraiment d'ouvrir un peu plus en proposant ce choix, y compris les trois mois avant l'élection. S'il faut, moi, je suis prêt à cotiser pour que M. Arasi puisse réserver une salle. Non, parce que c'est vrai, il ne faut pas laisser une une liste aussi importante au niveau des idées, je parle. Je n'avais pas fini ma phrase en disant ce qui me retient, c'est quand même mon expérience.
Donc on prend acte de votre engagement de cotiser.
Non.
Sinon, moi j'ai quand même.
À cette heure-ci, c'est plutôt une divagation.
Ah bon. Moi, j'ai quand même une petite question, parce qu'il y a marqué par liste candidate dans les 3 mois précédents. Mais ça veut donc dire que si quelqu'un se déclare candidat 3 mois avant et que finalement il ne présente pas de liste, on lui imposera la première réunion à titre rétroactif.
Pourquoi ?
Ben, non, parce que
la première réunion, il ne paye pas.
Non, mais là, pour les réunions dans la période préélectorale.
Oui, 3 mois.
Si effectivement quelqu'un envisage de faire une liste et qu'au dernier moment il ne présente pas de liste, simplement parce que soit il ne trouve pas, soit il s'allie avec quelqu'un d'autre, comment vous allez régler le problème ?
Non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. De toute façon, c'est une association. Souvent, c'est une association. Donc.
Ça peut être une personne physique qui dit je vais me présenter.
Ah oui, on a pensé surtout à l'élection qui arrivait. Alors on pourra l'étendre peut-être aux candidatures uniques dans certaines autres élections. Mais pour l'instant, vous savez.
Non, mais s'il est tout seul, il va pas faire de réunion, à mon avis. Il va.
Non, mais la question, c'est qu'en fait, il suffit d'avoir 10 personnes. 10 personnes qui disent vouloir se présenter, ça fait 10 salles gratuites, et puis à la fin, les 10 personnes se mettent ensemble.
Et elles n'en ont plus qu'une seule pour la période électorale.
Électorale, mais elles ont eu 10 salles dans la période préélectorale.
Excusez-moi, mais à la limite, pourquoi pas ? Moi, ça ne me gêne pas, parce que. Non, il faut que. Les personnes, non, ce ne sont pas des personnes, hein, ce sont des listes qui sont issues d'associations. Monsieur Arazi nous a bien annoncé qu'il avait transformé sa structure en association. Hein. Comment ?
Vous n'avez pensé qu'à lui en faisant cette
décision ? Forcément, madame, forcément, je ne pense qu'à lui. Non, ce que je veux dire, c'est que, en vue d'une élection municipale, en général, ce que nous demanderons, c'est quelle association porte cette liste-là. C'est tout. Et là, il y aura un mandataire, forcément, etc. Donc, on le mettra sous la forme, vraiment, de l'association. C'est pas une personne comme ça qui peut venir la fleur au fusil en disant, ça y est, je vais me présenter au municipal.
C'est pas le même tarif dans ces cas-là.
Mais ça n'arrive pas souvent. Hein ? De toute façon, notre collègue Arazi parle en disant toujours nous. Donc il faut forcément deux au minimum. Forcément. Enfin voilà, nous avons noté le vote contre de Monsieur Arazi. Il n'y a pas d'autres votes contre. Merci. Ensuite, donc nous avons. C'est Madame Nataf. Alors, le vœu, oui. Nous avons été sollicités par les villes voisines du parc zoologique suite à, disons, non pas à la décision, puisqu'elle n'est pas encore prise, suite au projet du ministre chargé de ce... auquel est rattachée la rénovation et la... Et la dimension et la création d'une dimension internationale pour le zoo actuellement de Vincennes, et il est prévu de proposer que ce zoo soit dénommé Parc zoologique de Paris. Alors un certain nombre de personnes se sont émues de ce changement de nom, puisque ce parc et ce zoo est connu sous le nom de le zoo de Vincennes. Alors, du bois de Vincennes, bien sûr, mais de Vincennes. Et la proposition des villes voisines, dont notamment Vincennes, serait que, comme déjà actuellement l'hippodrome s'appelle l'hippodrome de Paris-Vincennes, eh bien, dans ce cas-là, le zoo soit le parc zoologique de Paris-Vincennes. C'est bien ça, hein, oui, c'est ça, de Paris-Vincennes. Voilà ce qui est proposé au niveau du vœu. qui consiste à faire en sorte qu'on parle bien du site et à la fois de la ville de Paris qui en est le gestionnaire. Donc voilà moi ce que je souhaitais vous proposer suite aux discussions que j'ai eues avec mes collègues de Vincennes et de Saint-Mandé. Y a-t-il des remarques sur cette proposition, Monsieur G.
On pourrait proposer aussi que l'aire des gens du voyage s'appelle Paris-Vincennes.
Ben, elle l'est déjà. Elle est déjà Paris-Vincennes. Mais nous ferons tout ce qui est en notre possibilité, en notre pouvoir pour faire en sorte que cette erreur soit réparée et qu'il n'y ait pas une utilisation de ce type du bois de Vincennes. Nous étions un certain nombre samedi matin réunis sur le site. Et je peux vous dire que, étant sur ce site, si vous y allez, vous verrez qu'il est réellement inapproprié pour ce type d'hébergement. Ce que j'ai demandé au maire de Paris, c'est qu'il... Alors, bien sûr, il y a une procédure que nous avons lancée solidairement contre la délibération de la ville de Paris qui crée ce projet, dont l'intitulé d'ailleurs est assez intéressant, c'est la reconquête arborée et paysagée du bois de Vincennes. Voilà. Et puis après, il y a un sous-titre création d'une aire de 28 places pour les gens du voyage. Donc nous avons décidé d'attaquer la décision, mais parallèlement à cela, moi j'ai demandé au niveau de Paris Métropole que le principe de l'accueil des gens du voyage soit réfléchi au niveau de la métropole et non pas ville par ville avec une addition de petits sites comme celui-là. Pourquoi ? Il y a l'expérience qui veut ça. Chacun d'entre vous se rappelle de l'arrivée des gens du voyage sur la plaine de Mortemart, aux alentours des abords du parc du Tremblay, etc. Ils ne viennent pas à 10, 20, 30. Ils viennent à beaucoup plus nombreux que cela. Et j'en ai rencontré quelques-uns qui me disaient « ça ne servira à rien parce que nous ne viendrons pas sur un site comme celui-là. Il est éloigné de 5 km des écoles. Il y aura un quart de ramassage scolaire qui viendra prendre les enfants le matin et les raccompagnera le soir. Nous sommes à côté de l'hippodrome de Vincennes et a priori, c'est pas une proximité qui nous plaît. Et nous, quand nous nous déplaçons pas à 20 ni à 15, mais des fois à 50 ou à 60. Donc il nous faut des aires d'accueil beaucoup plus dimensionnées en rapport avec ce que nous souhaitons. Et donc, vous voyez que même les intéressés discutent de l'opportunité de la création d'un tel site. Donc nous y travaillons, les pétitions sont particulièrement nombreuses, que ce soit à Nogent, à Vincennes, etc. Il n'y a qu'une ville qui ne s'est pas jointe à nous, c'est la ville de Fontenay. Peut-être qu'elle se sent moins concernée que les autres villes. Dans tous les cas, les Nogentais sont particulièrement sensibilisés à cette création, comme les autres habitants, et nous ferons tout, en tous les cas, pour faire en sorte que ce projet ne soit pas conduit jusqu'à sa réalisation. En tous les cas, nous pensons que prendre le problème de façon plus globale pourrait peut-être permettre de trouver des solutions beaucoup plus adaptées à l'attente des gens du voyage. Monsieur Pasternak.
Juste pour mémoire, pour vous dire que ce projet, la ville de Paris a voté un budget de 5 millions d'euros et qu'il en est de même pour le bois de Boulogne.
Voilà. Bien, donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on envoie ce vœu ? Bon, on va l'envoyer au ministre, puis on verra la suite qui sera donnée à cela. Bien, donc pas d'opposition et pas d'abstention. Bien, dernier rapport. Pardon, une abstention, monsieur Jeanne. Alors, deux abstentions, dont celle de monsieur Mastrogeni. Dernier rapport, les décisions prises par le maire dans le cadre du 21-22, y a-t-il des questions ? Oui, tous les ans, une fois par an, nous passons un accord avec une association, c'est Vert de, je ne sais plus quoi, comment vous l'appelez, Vert de Ville, qui va au-devant des propriétaires de quatre pattes pour leur expliquer qu'il s'agit quand même de vivre en société et puis d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le chien qui soit coupable des déjections canines, mais que le maître a quand même une certaine responsabilité. Donc ça a l'air de marcher. Trois mois après, on voit les résultats, puis après ça se dégrade jusqu'à l'opération suivante de promotion des comportements en ville avec les bêtes. Y a-t-il d'autres questions ? Madame Éloin, vous pouvez appuyer sur votre...
Pourquoi achète-t-on des convecteurs pour l'école Victor Hugo ?
On va démolir.
Ah bon ?
C'est simplement pour les mettre aux normes.
Mais ce sera à l'espace Marie Curie, mais elle doit garder le nom de Victor Hugo, parce qu'on ne peut pas la débaptiser. Elle doit garder le même nom, mais c'est pour les convecteurs de l'espace. Voilà.
Comme les convecteurs de Marie Curie provisoires ne sont plus aux normes, il a fallu les mettre aux normes par cette opération. Ah, c'est bien ça. Voilà. Mais on garde le nom. L'école restera Victor Hugo. Voilà. Bien. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre présence et puis de ce travail qui était important pour notre ville. Merci.